Vous êtes sur RTL.
Calvi vous attend, c'est à vous Yves, bonjour.
Merci beaucoup Julien de nous passer le relais. Emmanuel Macron en quête de crédibilité sur les questions de sécurité. Il accorde ce matin une grande interview à nos confrères du Figaro et nous allons y revenir en deux temps avec l'éditorial de William Galibert dès la fin du journal, mais aussi avec Rachida Dati, invitée politique de votre matinale. Elle répondra aux questions de Benjamin Sportouche à partir de 7h40, au menu aussi bien entendu la vaccination. Nous allons vous proposer deux grands dossiers ce matin. Le premier consacré à la délinquance routière. Elle reste très importante malgré le confinement, et nous découvrirons ensemble les procédures accélérées au tribunal de Bordeaux avec Christophe Demaria. Quant à Christophe Bourou, notre spécialiste maison, il fera le point sur les délits routiers toujours en augmentation à partir de 7h15. À titre d'exemple, sachez que 700 000 Français rouleraient sans permis et sans assurance. Enfin, à 8h20, le témoignage des parents d'un Français condamné à mort en Irak après avoir rejoint Daesh. Nous sommes le lundi 19 avril 2021. Très bonne journée à tous, RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et d'abord ce coup de tonnerre dans le foot européen. 12 des plus grands clubs décident de créer leur propre compétition.
La Super League, concurrente directe de la Ligue des Champions. Colère de l'UEFA qui menace de sanctions les participants. Nous allons tout vous expliquer dès le début de ce journal. À suivre également l'incroyable opération Commando qui a permis l'enlèvement de Mia, la fillette retrouvée hier matin en Suisse. Des élus formés par le GIGN pour apprendre à se défendre. Le vote électronique comme solution anti-Covid, et si la France décidait enfin de s'y mettre. Et puis des petits plats gastronomiques spécialement concoctés pour Thomas Pesquet. L'astronaute s'envolera jeudi dans l'espace.
La politique, William Galibert.
Emmanuel Macron joue donc sa crédibilité sur les questions de sécurité, on va en parler.
Rendez-vous dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ils ont donc choisi de faire bande à part et d'entrer en dissidence. 12 des plus grands clubs de football européens, parmi les plus riches également, ont annoncé cette nuit la création de leur propre compétition. Le projet de réforme de Ligue des Champions proposé aujourd'hui par l'UEFA ne leur convient pas. Ils s'apprêtent donc à lancer la Super League. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
D'abord, expliquez-nous en quoi va consister cette compétition.
Eh bien, une épreuve avec 20 clubs, dont les 3/4 seraient automatiquement qualifiés, ce seraient des membres permanents et il y aurait 5 clubs invités chaque saison. La formule, une phase de groupe et ensuite des matchs aller-retour jusqu'à la finale. Cette compétition serait en confrontation directe avec la Ligue des Champions organisée par l'UEFA. 12 clubs signataires adhèrent au projet, 6 en Angleterre, Liverpool, Chelsea, les deux Manchester notamment, 3 Italiens dont la Juventus et 3 Espagnols dont le Real Madrid et Barcelone. Pas de club français ni de clubs allemands, le PSG et le Bayern Munich notamment ont refusé à ce stade d'entrer dans le cercle des dissidents. Une ligue fermée, c'est une vieille tentative depuis 20 ans. Il y a eu des projets au milieu des années 2000, en 2015 ou encore en 2018.
La raison principale, c'est quoi? C'est l'argent?
Oui, ces clubs considèrent que l'UEFA ne verse pas assez d'argent. 2 milliards d'euros vont pourtant chaque année dans les caisses des 32 clubs actuels. L'enveloppe de la Super League pour 20 clubs, serait 2 à 3 fois plus importante. On parle de 4 à 6 milliards d'euros. L'équation est connue. On multiplie les rencontres, donc on multiplie les rentrées en termes de billetterie, de droits de télé et aussi de contrats.
Alors il y a eu dès cette nuit une réaction très violente de l'UEFA, l'instance du foot européen, avec un bras de fer très dur qui démarre.
Oui, message très ferme envoyé par l'UEFA et par la FIFA également au niveau mondial avec de fortes menaces de représailles. Les participants seraient bannis des autres compétitions comme les championnats nationaux par exemple. Les joueurs qui disputeraient la Super League ne pourraient plus aller en sélection pour les compétitions internationales. En France, front commun de la Fédération, de la Ligue, l'Élysée a réagi également dans un communiqué. C'est un projet qui menacerait, je cite, le principe de solidarité et le mérite sportif. Les clubs dissidents ouvrent la porte toutefois à des négociations avec l'UEFA. À ce stade donc, c'est un coup de pression, mais ils sont prêts à passer à l'acte.
Merci Nicolas Georgerot pour ces explications.
Nous allons revenir à présent sur l'incroyable scénario qui a permis l'enlèvement mardi dernier de la jeune Mia.
La fillette de 8 ans qui vivait chez sa grand-mère avait été emmenée par des ravisseurs se faisant passer pour des éducateurs, le tout commandité par sa mère qui n'avait plus le droit de voir sa fille seule. Mia et sa mère ont été retrouvées hier matin dans un squat en Suisse. 5 hommes ont été mis en examen pour enlèvement. Dimitri Ramelot, ils sont soupçonnés d'avoir monté ce rapt aux allures d'opération militaire. Racontez-nous.
Oui, un commando de 5 hommes recruté par Bouga, une connaissance de la mère de Mia. L'homme de 43 ans, le cerveau de l'opération baptisée Lima, a tout prévu. Talkie-walkie, portable, perruque, matériel de camping pour vivre dans les bois pendant 2 jours avant le rapt. Budget 3 000 euros et chacun son pseudo. François Perrin, procureur de la République de Nancy.
Jeannot, Pichoun, Le Corbeau, Bruno, Basile, ces hommes sont plutôt insérés et ne sont pas connus de la justice. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux, ils sont contre l'État, pensent que les enfants placés sont enlevés injustement à leurs parents.
Et avec les faux documents présentés à la grand-mère de Mia, les ravisseurs récupèrent l'enfant rapidement. Et pendant qu'un membre du commando rentre à Paris, le reste accompagne Mia et sa mère pour passer en Suisse en voiture d'abord, puis de manière beaucoup plus discrète.
À pied, le trajet va durer 2 heures. Ils vont d'ailleurs se relayer pour porter l'enfant. Une fois passé la frontière, un homme surnommé Roméo va prendre en charge la mère et l'enfant pour les déposer dans un hôtel.
L'opération Lima est terminée pour le commando. Une sympathisante à leur cause hébergera Mia et sa mère pendant une nuit à Neuchâtel avant de les accompagner dans le squat où elles ont été retrouvées hier matin.
Un récit signé Dimitri Ramelot. Faut-il y voir un lien? À un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron choisit de défendre son bilan en matière de sécurité ce matin dans les colonnes du Figaro. Il promet notamment de tenir son engagement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants, explique le président.
Et dans ce contexte, cette formation inédite pour permettre à nos élus, maires, parlementaires de faire face à la colère et à la violence de certains administrés.
1300 faits recensés l'an dernier, 3 fois plus que l'année précédente. Pour tenter de contrer ce phénomène, l'Association des maires de France et la gendarmerie ont donc mis en place une formation spécifique en partenariat avec le GIGN pour aider nos élus à désamorcer les situations qui peuvent dégénérer. Des formations particulièrement appréciées, vous l'avez constaté, à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, Hugo Hamelin.
Oui, ici dans le sud, tous les élus se souviennent du maire de Signes, écrasé en 2019 alors qu'il tentait d'empêcher un dépôt sauvage d'ordures sur sa commune.
Je me dis qu'il vaut mieux être préparé, faire en sorte qu'un tête-à-tête avec quelqu'un qui arrive un peu énervé puisse trouver une solution rapidement.
Daniel Long est premier adjoint du petit village de Beaurecueil, 600 habitants seulement.
Là, on a eu un petit exercice où le formateur était assez remonté, c'était au sujet du Covid et de sa maman qui ne pouvait être vaccinée. Déjà, je vais me mettre debout si vous êtes debout et vous inviter à ce qu'on s'assoie tous les deux pour essayer de discuter. Je vais vous laisser déverser votre colère. Ensuite, je vais acquiescer à ce que vous dites, pour montrer que je participe à votre angoisse et qu'on va essayer ensemble de trouver une solution.
Ce négociateur a été formé par le GIGN. Il se retrouve face à des maires qui ressentent une tension de plus en plus palpable.
Le point commun, c'est peut-être une situation qui arrive à des blocages de plus en plus rapidement, violente, au moins verbalement. Donc nous, ce qu'on leur apprend, c'est vraiment à faire baisser la pression.
Une formation proposée ces dernières semaines aux 35 000 maires de France.
Un reportage signé Hugo Hamelin.
Vers une généralisation du vote électronique, et si c'était la solution anti-Covid pour des scrutins sans risque, eh bien c'est notre reportage à suivre dans un tout petit instant sur RTL. Bonne journée à tous, il est 7h07.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Les machines à voter, on en reparle beaucoup sur fond de crise sanitaire. Et si ce système était amené à être généralisé?
On en est pour l'instant loin. Seules 60 villes françaises en sont dotées. Et manifestement, personne ne s'en plaint. Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, vote de manière électronique depuis des années. La commune est l'une des premières et son maire milite aujourd'hui pour étendre ce mode de scrutin. Problème, un moratoire de l'État interdit depuis 2008 toute acquisition nouvelle de machines. Reportage sur place de Gauthier de Lombugard.
Les électeurs de Villeneuve-le-Roi profitent du vote électronique à chaque scrutin depuis plus de 12 ans.
C'est pratique, c'est bien, ça va très vite.
On a juste appuyé sur un bouton, on ne peut pas prendre les papiers ni rien.
Ces machines à voter rassurent désormais en temps de Covid et pourraient réduire les risques de contamination.
J'ai renouvelé avec monsieur le maire
lors des élections.
Je me présente donc devant le président,
séparé par des plexiglas.
Didier Gonzalez a imaginé tout un protocole sanitaire. Le maire, épaulé par ses équipes, nous guide dans ce bureau de vote témoin.
Le président va inviter la personne à aller voter dans ce qui est considéré comme l'isoloir. C'est comme si on avait collé des bulletins de vote sur une planche. Sous chaque bulletin se trouve une touche. J'appuie et je valide.
À voter.
La simple opération de dépouillement, c'est tourner une clé qui vous fait sortir un ticket de caisse. Vous avez quelque chose qui limite considérablement les contacts.
Le maire et ses confrères de l'Association des villes pour le vote électronique espèrent la levée du moratoire d'ici la fin de l'année pour permettre un achat massif de machines.
Le quoi qu'il en coûte doit être aussi mis en action pour les opérations de vote.
Trop juste pour les régionales de juin, les élus misent sur la présidentielle de 2022.
Reportage signé Gauthier de Lombugard. Au Pakistan, la libération ce matin des 11 policiers détenus par les militants d'un parti islamiste radical qui exigeait le renvoi de l'ambassadeur de France dans un climat extrêmement tendu, sentiment anti-français exacerbé dans ce pays du Moyen-Orient où se multiplient les manifestations hostiles, en cause encore et toujours la défense des caricatures par le président Emmanuel Macron. Paris demande à ses ressortissants de quitter provisoirement le pays.
7h10, plus que quelques jours avant le nouveau grand départ pour Thomas Pesquet.
L'astronaute français s'envolera jeudi depuis la Floride à bord de SpaceX pour sa deuxième mission sur la station spatiale internationale qui doit durer 6 mois. Et si la France lui manque un peu, eh bien elle pourra toujours se consoler grâce à de bons petits plats concoctés par le chef Thierry Marx. Des menus réservés pour les grandes occasions et qui doivent répondre forcément à des exigences bien particulières. Sophie Jousselin.
Oui, un pressé de pommes de terre au cèpe, du bœuf de Bazas aux carottes et une tarte amandine aux poires. Trois plats qui doivent être équilibrés et respecter des règles bien précises pour être servis à la table des astronautes. Ils ont été mis au point au Centre français d'innovation culinaire à l'Université d'Orsay par le chef Thierry Marx et par un chimiste Raphaël Aumont.
Très peu de sel, très peu de sucre, zéro miette. Parce qu'il ne faut pas que ça vole partout. Le poivre ne peut pas être en grains, c'est du poivre liquide. Et puis les sauces doivent être assez visqueuses, parce que quand vous ouvrez la boîte, il ne faut pas que ça se retrouve à voler partout.
Autre difficulté, à 400 km d'altitude, en impesanteur, les astronautes perçoivent moins bien les saveurs. Thierry Marx a dû retravailler sa recette d'amandine aux poires.
J'ai chassé quasiment le sucre pour aller plus sur des miels, récupérer le sucre de la poire. Et puis, il y a une torréfaction de l'amande. L'amande est un corps gras quand elle n'est pas chauffée. Ça reste qu'une texture pâteuse. Et puis là, après, il y a la cuisson. À quel moment je vais créer finalement cette caramélisation pour qu'on développe une sursaveur.
Ces plats mis en conserve par l'entreprise ENAF seront réchauffés dans le petit four de la station spatiale avant d'être dégustés par les astronautes.
Bon, bah, ça y est, j'ai faim. Moi.
Ça vous donne envie de partir dans l'espace tout de suite. Sophie Jousselin, un mot du championnat de Ligue 1 avec un sprint final décidément passionnant. Lille, Paris, Monaco, Lyon, les quatre se tiennent en 3 points en haut du tableau. Hier, Paris l'a emporté 3-2 face à Saint-Etienne. Monaco est allé gagner à Bordeaux 3-0 et Lyon a battu Nantes 2-1. Lille, le leader, avait fait match nul vendredi, 1-1 face à Montpellier, ce qui a permis à ses dauphins de se rapprocher. Il reste 5 journées à jouer.
Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud et on a un non partant, le 3.
Oui, avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 12, le 10, le 13, l'As, le 8 et le 7. Et la dernière minute, c'est le 10, Papoua.
Merci Dominique Tenza, on se retrouve à 8h.
Tout à l'heure.
Il est 7h12, la politique avec vous, William Galibert. Bonjour,
bonjour
William. Une rencontre avec des policiers à Montpellier tout à l'heure et une grande interview publiée ce matin. Emmanuel Macron lance une nouvelle offensive sur la sécurité.
Oui Yves, il y a un signe qui ne trompe pas. Quand vous sortez la carte du grand entretien sur la sécurité, que vous le faites dans le Figaro, eh bien comme on dit dans le sport, c'est que vous voulez bosser les fondamentaux. Oui. Là, sur la sécurité, depuis son élection, Emmanuel Macron semble obéir, sans toujours beaucoup de succès, au précepte de l'ancien sélectionneur des Bleus, Aimé Jacquet, le fameux « muscle ton jeu ». Le président a commencé son mandat par simplement instituer une amende pour les fumeurs de cannabis. Désormais, il veut stopper les trafics, lancer, je cite, un grand débat national sur la consommation de drogue. Il s'est fait élire en anti-Manuel Valls sur les questions de laïcité. Maintenant, il répète qu'il fait la guerre au séparatisme. Enfin, au mois de décembre dernier, il admettait qu'il y avait des violences policières en France. Ce matin, il répète plutôt qu'il n'y a ni racisme, ni violence systémique dans la police. Et il promet 2000 policiers et gendarmes de plus d'ici la fin de l'année.
Alors, pourquoi se faire entendre maintenant sur ces sujets?
Il faudrait plutôt dire pourquoi se faire entendre encore une fois sur ces sujets pour défendre un bilan qui n'apparaît pas de lui-même. Il y a déjà eu un séminaire gouvernemental sur la sécurité, c'était en septembre dernier. Il y a déjà eu le discours des Mureaux sur les séparatismes, c'était en octobre. Puis il y a eu la loi qui en a découlé. Il y a enfin eu le Beauvau de la sécurité lancé au début de l'année. Ça fait beaucoup, mais pour quels effets? Ça n'imprime toujours pas dans l'opinion, se lamentent plusieurs voix dans la majorité. Alors certes, la crise sanitaire occupe beaucoup d'espace, mais là c'est une faiblesse qui a tout de même été identifiée dès 2017. Constat d'un ponte de la République en marche, les gens veulent de l'ordre et on n'arrive toujours pas à l'incarner. Il enchaîne par un tacle, Gérald Darmanin qui pense parler à la droite et aux classes populaires, c'est catastrophique, lâche cet élu.
Le président peut-il inverser la tendance?
Le problème pour Emmanuel Macron, c'est que tout à l'heure, il va rencontrer des policiers qui n'y croient pas eux-mêmes. Ils ont les mots injustice et laxisme à la bouche après le verdict qui a acquitté 8 jeunes accusés d'avoir gravement brûlé plusieurs policiers à Viry-Châtillon. Les dernières semaines, ont aussi été marquées par ces affrontements violents entre bandes rivales. Hier soir, Marine Le Pen qualifiait Emmanuel Macron de président du chaos et de la violence partout. Xavier Bertrand, lui, parlait de l'échec total du chef de l'État sur ces sujets régaliens. En fait, le chef de l'État a beau vouloir se saisir du sujet, se montrer à l'offensive avec en vue la présidentielle, ses mots se heurtent à la réalité. Ce matin, dans le Figaro, il se présente en garant d'une vie paisible pour les Français. Mais l'actualité se charge de lui contester ce titre, d'alimenter le procès en impuissance et de fournir un carburant perpétuel à son opposition.
Et bien justement, tout à l'heure à 7h40, c'est la maire LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, qui répondra, elle, aux questions de Benjamin Sportouche. Merci beaucoup, William Galibert. Toute l'actualité politique est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans un instant, gros plan sur la délinquance routière. Nous serons avec notre brigade dans les arcanes du palais de justice de Bordeaux, où des contrevenants vont devoir répondre à leur infraction et nous ferons un point sur les nouveaux délits et les nouveaux risques, même en période de pandémie.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin, 7h-9h30.
Avec Yves Calvi.
Et avec notre brigade de l'actualité consacrée ce matin à la délinquance routière qui existe largement et ce malgré le confinement. Défaut de permis, conduite sous alcool ou stupéfiants sont devenus des délits classiques. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pour mieux comprendre cette réalité, vous nous emmenez au tribunal de Bordeaux pour des audiences particulières, hein, des notifications d'ordonnance pénale.
Oui, les lieux sont les mêmes que pour une audience classique, une des salles du palais de justice de Bordeaux et une petite trentaine de personnes convoquées ce matin. La plupart pour des délits routiers. Andrea, elle, c'est pour conduite en état d'ivresse.
Je travaille dans le milieu hospitalier. Ça faisait, je sais pas combien de temps que je voyais personne. Mes amis m'ont invité à manger. On a bu un peu et bon, j'ai pas beaucoup mangé parce que vu l'heure qu'il était, je venais de débaucher, j'étais fatiguée, donc en plus la fatigue et tout. Je suis rentrée chez moi. Très bien d'ailleurs, c'est quand je suis descendue que les gendarmes m'ont cueilli.
Ici, pas de juge ni d'avocat. Hubert Bonin est délégué du procureur. Ancien policier, il exerce depuis 10 ans cette fonction.
Aujourd'hui, vous êtes convoqué en audience suite à des infractions que vous avez commises. Ces infractions, pour la plupart, sont des infractions au code de la route, soit des conduites sous alcoolémie, des conduites sous stupéfiants, des défauts de permis de conduire, des défauts d'assurance.
Alors le délégué ne fait que notifier la condamnation prise par un juge sur des faits qui ont déjà été reconnus par le contrevenant. Et c'est au tour d'Andrea.
Pour ce fait de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, vous êtes condamné en peine principale à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 6 mois. Et à titre de peine complémentaire, interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pour une durée de 4 mois. Vous avez eu une suspension, madame, le 15 novembre, là.
Oui.
Et comme son permis était suspendu depuis l'automne, Andrea a déjà purgé sa peine et va pouvoir récupérer son précieux sésame.
J'ai roulé à vélo pendant 4 mois. C'était pas simple, hein, surtout les jours de pluie et quand il faisait froid. C'est vrai que là, on se dit que... Eh bien, on ne recommencera pas, quoi. J'en avais ras le bol. Et c'est tout. Ce soir-là, soit c'était je prenais un paquet de cachets ou c'était voilà, pas le moral et tout. J'ai coupé avec mes amis. Ils savaient très bien que j'avais bu. Ils auraient dû me garder avec eux.
C'est pas de la faute de vos copains?
Non, c'est sûr. Non, mais après, voilà, quoi. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Voilà, terminé. Là, je récupère mon permis. Je vais pouvoir rouler, ça va me faire du bien au moral.
Alors, conduite sous l'emprise de l'alcool, donc, pour Andrea, les automobilistes qui se font prendre en ayant consommé des stupéfiants sont eux aussi, bien entendu, de plus en plus nombreux.
Oui, les tests se multiplient lors des contrôles des forces de l'ordre. Hubert Bonin, le délégué du procureur, a donc été policier, notamment policier en sécurité routière.
Quelqu'un qui consomme le samedi soir, voilà, c'est festif, mais il va être positif jusqu'au milieu de la semaine, quoi. Et voire plus en fonction de ce qu'il a consommé. Donc, ça s'est banalisé, bien sûr. Ouais.
Clément a été testé positif au cannabis et ça a des conséquences majeures sur sa vie.
Je devais passer mes concours de police, j'avais bossé dur. Et au final, ben, ce jour-là, je l'ai raté mes concours. Et quand je suis rentré, ben, moi je fumais avant et j'avais tout arrêté. Et il me restait un produit chez moi et je l'ai fumé. Et bien sûr, je suis parti au tabac. Et vu que c'était le confinement, ben, je me suis fait arrêter et pas de chance. Mon casier, il est plus vierge. Et du coup, ça fait que j'ai plus le droit de me présenter pour des concours administratifs. Je trouve pas ça injuste puisque c'est quand même dangereux. On conduit sous stupéfiants, etc. On est conscient, mais ça peut faire mal.
En moins de 2 heures, une trentaine d'ordonnances pénales ont été ainsi notifiées pour des infractions routières commises à l'automne. La procureure de Bordeaux, Frédéric Porterie.
L'intérêt, évidemment, de cette procédure,
c'est sa rapidité. Et donc, ça permet évidemment un désengorgement des tribunaux face à ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, du contentieux de masse. Et le contentieux routier fait partie des contentieux de masse.
L'an passé, pas moins de 5000 ordonnances pénales ont ainsi été notifiées en Gironde. 80% concernés des délits routiers.
Merci beaucoup Philippe de Maria, RTL à Bordeaux. Et nous continuons avec un autre membre de notre brigade. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour à tous.
Christophe, quelle est la situation aujourd'hui? D'abord, est-ce que les automobilistes arrêtés et jugés pour usage de stupéfiants au volant sont de plus en plus nombreux?
Clairement oui, avec une augmentation de l'ordre de 30% ces deux dernières années du nombre de cas devant les tribunaux. Alors ce chiffre explose pour une raison simple. Il y a davantage de contrôles, des dépistages qui sont désormais rapide à réaliser par les forces de l'ordre grâce aux tests salivaires, avec aussi davantage de cas où l'automobiliste a consommé drogue et alcool. Dans ce cas, le risque d'accident est multiplié par 15.
Autre tendance, avec le confinement, le nombre de personnes qui passent devant les tribunaux pour un grand excès de vitesse.
C'est-à-dire 50 km/h au-dessus de la vitesse limite autorisée. Lors de la mise en place du deuxième confinement, ces comportements avaient tout de même grimpé de 50%. Bon, même si cela semble se calmer, cela reste conséquent. Exemple dans le Morbihan, ces grands excès de vitesse ont augmenté de 28% depuis le début de l'année.
Tout aussi inquiétant, mais beaucoup moins visible, la conduite sans permis, Christophe.
Et cela toucherait au minimum 700 000 personnes en France, chiffre qui a plus que doublé en 10 ans, avec un constat qui inquiète les avocats. De plus en plus de personnes, en effet, se font contrôler sans permis après avoir perdu tous leurs points. Non pas suite à un gros délit, mais suite à une succession de petites infractions. Et de peur de perdre leur emploi, eh bien, ils continuent de rouler en toute illégalité.
Pourtant, la sanction est extrêmement lourde.
Car rouler sans permis est passible de 15 000 euros d'amende et d'un an de prison. En cas de récidive, c'est le double, 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison.
Et puis, il y a la conduite sans assurance qui, elle aussi, est élevée.
Et là, le chiffre est quasi identique à celui des conduites sans permis, soit environ 700 000 personnes. Là aussi, les conséquences peuvent être lourdes, avec risque d'une suspension du permis, voire d'une confiscation de votre véhicule. Et surtout, en cas d'accident, là, vous risquez cher, c'est-à-dire de payer toute votre vie pour rembourser le fonds de garantie qui indemnise les victimes. Il faut savoir que les conduites sans assurance sont impliquées dans 7% des accidents mortels.
D'ailleurs, la sécurité routière craint, en cas de déconfinement et à l'approche de l'été, de revivre le même scénario que l'an passé.
Oui, puisqu'on avait assisté à une véritable flambée, 6% de plus de conduites sans assurance entre mai et juillet. À cela, deux raisons. La première, eh bien, certains conducteurs n'avaient pas renouvelé leur assurance pour ne pas avoir à la payer. Deuxième raison, majoritaire, beaucoup d'automobilistes de bonne foi qui n'avaient pas utilisé leur voiture ont tout simplement oublié de renouveler leur contrat. Donc, au prochain déconfinement, soyez vigilants pour éviter de vous retrouver hors la loi.
Eh bien, en effet, soyons vigilants. Merci beaucoup, Christophe Bourou, notre spécialiste de la route et de l'automobile sur RTL. Nous allons retrouver Marina Giraudeau dans quelques instants pour faire un point météo. Les grosses têtes seront là, elles aussi. Et puis, on va avoir surtout, dans un tout petit instant, le plaisir de retrouver la pépite musicale sélectionnée par Anthony Martin. Bonjour, Anthony.
Bonjour, Yves. On va passer de la voiture à la moto.
Oui, ah bah, ça nous fera du bien.
Vous allez voir.
On prend l'air.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h25, on vous retrouve Anthony Martin avec notre première pépite musicale de la semaine.
Alors bonjour à tous. Alors dans notre catégorie, rendons à César ce qui lui appartient, intéressons-nous à cette chanson.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
L'homme à la moto, été 56, l'un des grands succès d'Edith Piaf. La chanteuse venait de passer un an aux États-Unis et c'est là-bas qu'elle avait repéré un morceau rhythm and blues très western dans la couleur, interprété par un trio vocal qui s'appelait The Cheers. La chanson en question avait pour titre Black Denim Trousers and Motorcycle Boots, jean noir et bottes de moto. Elle avait été inspirée par le succès pétaradant de Marlon Brando, tout en jean et cuir dans le film L'Équipée Sauvage. Edith Piaf avait donc demandé à ce qu'on adapte cette chanson pour elle. C'est comme ça que le parolier Jean Dréjac a imaginé L'Homme à la moto, en restant d'ailleurs très fidèle au texte d'origine. La moto a donc fait un long voyage puisqu'elle vient des États-Unis. C'est notre pépite du jour. Avant Edith Piaf, The Cheers chantait Black Denim Trousers and Motorcycle Boots.
And motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. Run, run. Well, he never was.
washed his face, and he never combed his hair. He had axle grease embedded underneath his fingernails. On the muscle of his arm was a red tattoo, a picture of a heart saying, "Mother, I love you." He had a pretty girlfriend by the name of Mary Lou, but he treated her just like he treated all the rest. And everybody pitied her, 'cause everybody knew he loved that doggone motorcycle best. He wore black denim trousers and motorcycle boots, and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101.
C'était la terreur de la Highway 101, de l'autoroute 101.
Ça a pris plus de caractère, hein. Avec le crédit, oui, oui, oui.
C'est la version originale de L'homme à la moto de Piaf, un morceau signé par le tandem Jerry Leiber et Mike Stoller, ceux qui, à la même époque, écrivaient les premiers morceaux d'un jeune qui s'appelait Elvis Presley.
Ah oui.
Oui, ce sont les auteurs de Hound Dog, Loving You, Love Me et aussi plus tard Stand By Me. Autant dire qu'en en adaptant ce morceau américain, Edith Piaf a participé au frémissement du rock en France.
Contrat tenu et à demain pour une nouvelle pépite.
À demain.
L'un des secrets des grosses têtes, c'est une équipe soudée, mais aussi de fidèles auditeurs.
J'ai été vraiment content de vous avoir parce que j'ai été surpris. Là, vous m'avez pris un peu au dépourvu parce que je ne m'attendais pas que vous m'appuyiez pour la valise. Quoi.
Ah, bah oui, je comprends bien. Voulez-vous une montre RTL, Eric?
Ah, c'est vraiment gentil. Bah, je vais vous demander une montre pour mon épouse.
On va vous envoyer deux montres. Une pour votre épouse et une pour vous,
on peut
Eric.
Pas envoyer
et une autre
aussi.
Pour votre maîtresse. Vous n'allez pas demander aussi.
Oh. Est-ce que vous avez une maîtresse, monsieur?
Vous n'allez pas me croire, je suis fidèle.
Ah,
oh, monsieur,
ça nous fait plaisir, bravo. Monsieur Bienfait.
Il est fidèle depuis qu'il est vieux. Quoi.
Depuis que je passe à la radio.
Eh bien, nos auditeurs aussi ont du talent. Rendez-vous dès 15h30 dans le grand studio RTL avec Laurent Ruquier. Christine Ockrent, Elie Semoun, Isabelle Mercot, Michel Faux, Bernard Mabille et Laurent Baffy sont l'équipe de cette journée. Bonjour, chère Marina Giraud.
Bonjour, Yves.
Alors, on redémarre la semaine avec une météo plutôt fraîche, mais ça va s'arranger.
Exactement. Ce matin, c'est encore frais pour la saison. Il y a quand même moins de gelées que ce qu'on a eu ces derniers jours. Elles sont moins nombreuses, mais il y a quelques gelées qui traînent. Alors, Massif central, Jura, mais aussi près de la Manche ou encore du Calvados. On est 2 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison ce matin. Mais cet après-midi, on gagne 2 à 3 degrés, on va revenir à des moyennes de saison. 14 au Havre, 15 à Lille, 15 aussi à Mulhouse, vous aurez 16 à Alençon, il fera 16 degrés à Grenoble, à Nice et à Ajaccio, 17 à Paris, 17 à Limoges, 18 à Nantes, 20 degrés à Perpignan ou encore à Bordeaux. Alors ce matin, ce sera ensoleillé pour quasiment tout le monde, il y a juste des passages nuageux et quelques gouttes du nord, nord-est et sur la Corse. Mais pour les autres, du beau temps, profitez-en parce que l'après-midi sera un petit peu plus nuageux. Des nuages qui concerneront l'Île-de-France, tout ce qui se trouve au nord de la Loire et le centre du pays. Le sud-ouest gardera du soleil et là où ça va vraiment se dégrader, c'est toujours de la Corse. Mais cette fois, jusqu'aux Alpes, en allant vers la Bourgogne, nord-est et les Hauts-de-France avec des averses, parfois des orages. Et puis de la neige en montagne aussi à moyenne altitude pour les Alpes et le relief Corse.
Merci beaucoup Marina Giraudot. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Alexandre de Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 19 avril. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Des policiers appelés à manifester devant les tribunaux. Ils sont en colère après le verdict du procès en appel du drame de Viry-Châtillon. 8 jeunes ont été relaxés, 5 autres ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. L'émotion suscitée par cette attaque en 2016 est encore intacte, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui promet de recevoir personnellement les policiers victimes cette semaine. Une femme et un homme avaient été gravement blessés, pris pour cible par un groupe de jeunes à coups de cocktail Molotov. Mehdi, du syndicat Alliance, connaît bien l'une des victimes.
Il comprend pas. Il est actuellement encore à l'hôpital. Là. Il s'est opéré régulièrement. Il subit encore cette affaire. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Et vous voyez qu'il est toujours en train d'essayer de s'en sortir physiquement. C'est une injustice énorme. Là, la suite, elle va être compliquée de continuer notre travail. Tous mes collègues subissent des violences quotidiennement sur le département. Et là, c'est pas un bon message pour eux, quoi. On fait notre boulot, quoi qu'il coûte. Mais là, c'est compliqué, là.
Des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Cinq hommes mis en examen pour enlèvement en bande organisée après le kidnapping de la petite Mia, la fillette de 8 ans, a été retrouvée saine et sauve hier dans un squat en Suisse avec sa mère. Son enlèvement avait été extrêmement bien préparé, conçu comme une opération militaire, selon le procureur de Nancy, une équipe recrutée sur les réseaux sociaux qui avait soustrait la fillette à sa grand-mère en se faisant passer pour des travailleurs sociaux. La mère de la petite Mia sera bientôt extradée vers la France si elle ne s'y oppose pas.
Il est 7h32. Un document RTL à présent, le témoignage du père d'un djihadiste français condamné à mort en Irak, Alexandre.
Pour avoir appartenu à Daesh, Léonard Lopez est actuellement détenu dans une prison à Bagdad.
Ce qu'il nous a dit de son procès, tel qu'il se passe en Irak, c'est-à-dire un procès qui dure un quart d'heure ou une demi-heure, un avocat qui prend connaissance du dossier à l'audience, pas de témoignage, pas de témoin. Une condamnation à mort qui est prononcée par des juges qui délibèrent pendant 2 ou 3 minutes. Quand la France permet que des Français soient livrés à un pays qui va les condamner à mort, ce n'est pas conforme à sa constitution, ce n'est pas conforme à ses valeurs.
Le père d'un djihadiste français au micro RTL de Nicolas Burnand.
Et nous y reviendrons dans le détail dès 8h20.
Au Pakistan, 11 policiers viennent d'être libérés. Ils avaient été pris en otage par des manifestants anti-français. La colère gronde toujours dans ce pays suite aux propos d'Emmanuel Macron qui avait défendu le droit à la caricature. La semaine dernière, l'ambassade de France avait appelé ses ressortissants à quitter provisoirement le Pakistan.
La polémique du jour en football, 12 des plus grands clubs européens, les plus riches d'ailleurs, menacent de faire sécession.
Ils annoncent la création d'une nouvelle compétition européenne, la Super League, avec un butin initial de 3,5 milliards d'euros à se partager pour les clubs fondateurs. L'UEFA, qui organise actuellement la Ligue des Champions, y voit une déclaration de guerre, pas moins. Plusieurs clubs anglais prévoient d'y participer, notamment Manchester United. Un scandale pour l'ancien Red Devil Gary Neville.
I'm disgusted, absolutely disgusted.
Je suis dégoûté, complètement dégoûté.
Honestly, we have to wrestle back the power in this
C'est
country.
Une honte.
Pure greed. They're imposters.
C'est juste une question de fric.
They're imposters. They're nothing to do.
C'est l'appât du gain, ce sont des imposteurs. Et le temps est venu de reprendre le pouvoir. Il y en a assez, trop c'est trop.
Honestly, the time has come now. Stop these clubs. Enough is enough.
Et à noter qu'aucun club français n'a prévu de participer à cette Super League. Pour l'instant, pas même le Paris Saint-Germain.
Toujours des réticences pour le vaccin AstraZeneca. Les doses sont là, mais les patients n'en veulent pas.
4000 doses à Nice, seulement 58 patients vaccinés ce week-end. Même chose à Douai dans le Nord, 900 doses, 250 injections seulement. La directrice du centre de vaccination.
Des personnes qui sont venues spontanément demandent systématiquement d'abord le Pfizer. Certains rebroussent chemin lorsqu'on leur dit qu'il ne reste plus que l'AstraZeneca. Il y a certaines personnes qui vérifient sur la seringue s'il y a bien l'étiquette Pfizer. Les gens essaient de choisir et moi je pense que c'est le problème qu'on a.
Salia Grévin avec Antoine Decarne pour RTL. Emmanuel Macron en interview hier soir à la télévision américaine.
We will progressively lift the restrictions at the beginning of May,
which means that we annonce une levée progressive des restrictions de voyage à partir du mois prochain, notamment pour les citoyens américains qui sont déjà vaccinés. La France n'a pas prévu de rouvrir ses terrasses avant la mi-mai, mais plusieurs pays à travers le monde commencent déjà à se déconfiner. On continue notre tour du monde ce matin avec le Portugal. Ludovic est guide conférencier à Lisbonne.
Hier, j'ai été manger en terrasse. Ouais, non, j'en ai profité un peu. Ouais. Bon, par contre, ils veulent qu'on mange vite, hein, parce que vu qu'ils ont 4-5 tables à l'extérieur, on n'a pas le temps de prendre de café avec la cigarette. Quoi. C'est, y a quelqu'un qui attend derrière, vous voyez. Pour une table, on mange, on part. Quoi. Mais bon, voilà, ça rouffe tout doucement.
Des propos recueillis par Émilie Bojard pour RTL.
Pas de restriction de déplacement sur la planète Mars. Hein.
Oui, suite de la mission de la NASA avec une première historique. Un mini-hélicoptère qui va tenter de décoller depuis le sol martien avec, à la clé, on l'espère, des premières images de l'horizon de la planète rouge.
Le petit hélicoptère va décoller pendant une trentaine de secondes. Le tout sera filmé. On récupérera les données dans les jours qui vont suivre. C'est une espèce de démonstrateur technologique qui préparera plus tard des plus gros engins. On espère qu'il va se reposer bien droit et qu'il ne va pas basculer sur le côté, sinon ce serait la fin de ce projet.
Alors on espère aussi l'astrophysicien François Forget avec Valentin Boisset pour RTL. Il faudra retenir son souffle à partir de 9h30, heure française.
Ben ça aussi c'est passionnant. C'était le Tout Info avec Alexandre de Saint-Aignan. Il est 7h36, bonjour François.
Bonjour Armel. Yves.
Vous nous allez nous donner les noms de ceux qui veulent s'envoyer en l'air, François. Je m'inquiète un peu. De quoi s'agit-il ?
Oui, on veut des noms. Des noms. Oui. Donc vous allez avoir des noms et des projets parce que la Lune et l'espace ont le vent en poupe cette année. La course reprend plus belle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, oui, sur la Lune ? Je vous raconte ça dans un instant.
Surtout une version pour toutes les oreilles.
Évidemment.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h37, l'Angléco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
La conquête de l'espace repart de plus belle. Jeudi, l'astronaute français Thomas Pesquet décollera pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Oui. Et vendredi dernier, la NASA a donné le coup d'envoi d'une nouvelle expédition lunaire.
Oui, la NASA projette de renvoyer des hommes sur la Lune pour la première fois depuis presque 50 ans. Et en fin de semaine dernière, elle a confié à l'américain SpaceX, dirigé et créé par le patron de Tesla, Elon Musk, la réalisation de la navette qui devrait voyager en 2024. C'est bientôt. Hein. Cette navette devrait utiliser une fusée construite par Boeing. C'est Trump, en fait, qui avait relancé la conquête de l'espace avec le gigantesque projet Artemis, qui vise littéralement à coloniser la Lune, notamment pour contrer les initiatives de la Chine.
Bah les Chinois aussi rêvent de la Lune. Hein.
Oui, alors il y a bien sûr la rivalité stratégique avec les États-Unis. La dernière fois que la Terre a envoyé des hommes sur la Lune, on était en pleine guerre froide avec l'Union soviétique. La guerre froide revient, mais cette fois-ci avec la Chine. Eh bien, la conquête de l'astre nocturne en revient aussi. Les Chinois ont lancé à l'automne dernier la mission Chang'e 5, c'est le nom d'une déesse mythologique locale.
Merci.
Qui a fait l'aller-retour, sans présence humaine à bord, pour collecter de précieuses roches qu'elle a rapportées en atterrissant en Mongolie intérieure. Autant d'échantillons qui sont aujourd'hui analysés secrètement dans un laboratoire de Pékin. La Chine veut lancer sa propre station spatiale, dès 2022 et une mission lunaire habitée à partir de 2025.
Alors tout ça est passionnant, mais qu'est-ce qu'on cherche sur la Lune, François ?
D'énormes ressources minières, des métaux, des terres rares qu'on utilise dans l'électronique, mais aussi probablement de l'hélium-3. C'est un carburant ultra efficace qui serait en fait le véritable motif de la mission chinoise récente, selon le South China Morning Post. Vous savez, c'est le journal de Hong Kong. Sur Terre, ce matériau, l'hélium-3, il vaut 1 million de dollars le kilo. En fait, il pourrait permettre d'aller sur Mars à partir d'une sorte de station-service lunaire.
Mais pardonnez-moi, ça veut donc dire qu'on se prépare à exploiter la Lune ?
Oui, c'est l'objectif de l'Amérique. Elle répète cette fois-ci qu'elle va sur la Lune pour y rester, avec une présence permanente à partir de 2028. Le projet Artemis, élaboré par l'administration Trump, prévoit de mettre en place une station orbitale près de la Lune, une sorte de hub, en liaison avec un commandement militaire de l'espace. Alors, il associe différents pays et puis des entreprises privées, à la fois pour construire les infrastructures et puis pour exploiter les ressources extraterrestres. Ça pose d'ailleurs un problème juridique parce qu'au terme d'un accord international qui date de 67, la Lune est propriété de l'humanité, qui ne peut être soumise aux souverainetés nationales de la Terre et qui doit être utilisée seulement à des fins pacifiques. En 2015, le Congrès américain a quand même voté une loi qui permet aux États-Unis d'exploiter commercialement les ressources spatiales. Loi prolongée par un décret de Trump, malgré l'absence de consensus international. Oui. C'était en avril dernier. Il s'agit de créer des colonies, mais qui ne concerneraient pas les extraterrestres vivants, si jamais on en trouvait.
Bon, l'Europe, que fait-elle là-dedans ?
Elle est associée de près à Artemis. L'agence spatiale européenne devrait participer en construisant, avec Airbus et Thales notamment, un module destiné au ravitaillement, un autre destiné à l'habitation. Pour la première fois, l'Europe s'est dotée d'un budget spatial important, c'est 13 milliards d'euros, sous la houlette du commissaire français Thierry Breton. Mais c'est un programme qui concerne plutôt les lanceurs et les satellites, qui est aussi un secteur en pleine expansion.
Bon, moi j'ai découvert ce matin Chang'e 5, n'est-ce pas ? Déesse chinoise.
Lancée par la fusée Long March 5,
absolument, bien sûr. Bon, c'est magnifique. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur RTL.fr pour le hors-série de l'Angléco, je le rappelle. Il est 7h41, bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La maire LR du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. Longue offensive d'Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin pour défendre sa politique en matière de sécurité. Est-ce que l'ancienne ministre de la Justice en est franchement si éloignée ?
A tout de suite avec Rachida Dati sur l'antenne d'RTL. Il est 7h41. Bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi. RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h42, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati.
Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Avant de parler justice et sécurité, l'interview d'Emmanuel Macron, il y a actuellement une grande défiance contre l'AstraZeneca. Vous êtes, Rachida Dati, éligible à ce vaccin. Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous allez le faire pour donner l'exemple ?
Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été éligible à la vaccination jusqu'à maintenant. Donc, je ne suis pas vaccinée.
Est-ce que vous allez le
j'ai
faire
un taux d'anticorps extrêmement important. Donc, mon médecin m'a demandé d'attendre encore quelques semaines avant d'être éligible à la vaccination.
Est-ce que vous le feriez?
Si je le fais, je le fais dans le centre.
À l'AstraZeneca.
Non, mais si je le fais, je le fais dans le centre de vaccination dont je dépends, celui du 7e arrondissement. Et nous avons du Pfizer. Et mais exclusivement du Pfizer.
Et l'AstraZeneca, vous comprenez cette défiance? Non, mais est-ce que vous comprenez cette défiance?
Je comprends.
Est-ce que vous le feriez, non, vous, si ça pas... vous était proposé?
Non, mais je comprends les réserves des Français, puisque le discours concernant l'AstraZeneca a été c'est fiable, pas fiable, il y a des réserves, il y a des pays qui l'ont interdit, d'autres qui le continuent. Et j'ai même entendu Mme Pannier-Runacher dire on n'en achètera plus. Donc ça peut créer quelques réserves chez les Français.
Est-ce qu'on arrête la vaccination à l'AstraZeneca?
Moi, j'en sais rien. C'est pas. C'est pas moi qui décide. Je vous dis, soit il est fiable de manière définitive et allons-y, soit il y a des réserves et il faut qu'elles soient soulevées. Mais sinon, je vous dis, dans le centre de vaccination du 7e, nous avons exclusivement du Pfizer.
D'accord,
monsieur Sportouch. Si vous habitez le 7e, vous serez éligible au Pfizer.
Et vous avez vacciné vos enseignants.
Exactement.
Autre sujet d'actualité, une décision de justice qui a suscité la colère à Châtelet-Dati en 2016, à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Des policiers avaient été victimes d'une violente agression dans leur voiture. Samedi, le verdict en appel a été moins sévère qu'en première instance, ce qui a suscité l'indignation des policiers. Mais l'ancienne ministre de la Justice que vous êtes défend-elle la décision des magistrats?
Vous savez, ces faits criminels extrêmement graves sont la traduction de deux choses. D'abord, un sentiment d'impunité totale, parce que vous avez remarqué qu'en France, nous sommes sur un taux inédit d'explosion de la délinquance et en particulier des atteintes aux personnes. Et des atteintes aux personnes, notamment dépositaires de l'autorité publique. Les pompiers, les gendarmes, les policiers et même les médecins dans certains quartiers. Et donc, il y a un sentiment d'impunité totale. Et puis, sur la faiblesse de la sanction, ou en tous les cas, sur l'aspect tardif de la sanction. Tout cela crée un sentiment d'impunité. Et puis, je vous le dis, monsieur Sportouche, vous avez reçu notamment le garde des Sceaux, mais aussi le ministre de l'Intérieur. Quelle est la politique pénale en France?
On va y venir, mais question, est-ce que vous dites que c'est trop clément comme peine?
Moi, je dis, c'est un jury populaire, il y a une décision qui a été rendue. Je vous dis que simplement, c'est fait grave, parce qu'il faut revenir aux faits, qui sont des faits criminels, ont été quand même perpétrés par des individus qui ont un sentiment d'impunité totale. Voilà. Et l'absence de sanctions fermes et efficaces, l'absence de politique pénale claire, parce que nous n'avons pas de politique pénale aujourd'hui en France, tout cela contribue à conforter les délinquants dans ce type d'actes criminels.
On va y venir, mais autre décision de justice qui fait controverse, c'est celle de la Cour de cassation dans l'affaire Sarah Halimi, Rachida Dati, cette femme sexagénaire juive défenestrée à Paris, c'était en 2017. L'auteur des faits ne sera pas jugé car il est considéré comme pénalement irresponsable après une bouffée délirante due à la consommation de drogue. Emmanuel Macron le dit ce matin dans le Figaro, il veut changer la loi pour que la prise de stupéfiants ne supprime pas la responsabilité pénale. Et puis de l'autre côté, vous aviez Julien Bayou, le patron des Verts, qui est également avocat et qui disait hier au grand jury, on ne juge pas les fous, c'est le principe de notre justice. Alors, de quel côté vous vous situez?
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce criminel, l'auteur des faits, peut revivre en toute liberté, sans aucune contrainte, dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Il sort de l'hôpital, terminé pour lui. Ce principe d'irresponsabilité que nous avons dans notre droit français, c'est-à-dire le principe de ne pas juger les fous, qui est inscrit dans notre droit, c'est un principe. Moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai souhaité réformer ce régime d'irresponsabilité pénale. Je l'ai réformé. D'abord, j'ai créé une audience publique, si la famille de la victime le souhaitait ou si les victimes le souhaitaient, en présence de l'auteur, même s'il est déclaré irresponsable. Avant, il n'y avait pas d'audience. On vous receviez chez vous un papier non-lieu, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir.
C'est toujours le cas
non,
ou
mais,
pas
attendez. Ouais. Non, mais j'ai créé ça. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a une audience publique. D'abord, il y a un débat public qui va jusqu'à la déclaration d'irresponsabilité. C'est le premier point que j'ai amélioré. Le deuxième point, c'est la comparution de l'auteur. Avant, déclaré irresponsable, plus personne ne le voyait, il allait à l'hôpital, il sortait sans aucune mesure de contrainte. J'ai créé des conditions de sortie beaucoup plus encadrées pour l'auteur. J'ai souhaité aller plus loin, monsieur Sportouche. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai souhaité aller.
Donc comme le président, est-ce que vous dites que ce qu'il fait est valable?
Je termine. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais aller plus loin. Un, je souhaitais qu'il y ait des mesures de sûreté applicables à un auteur déclaré irresponsable à la sortie de de l'hôpital. Un exemple, un bracelet électronique, des mesures de surveillance sous le contrôle d'un juge. La gauche m'a vilipendé là-dessus. Et j'ai voulu changer également les critères qui conduisaient à la responsabilité. Un exemple.
Oui, mais...
On ne juge pas les fous, c'est vrai. Quelqu'un qui est fou, oui. On ne le juge pas dans le droit français. Mais quelqu'un qui se met en situation d'être fou, d'être déclaré irresponsable, ça j'ai souhaité le modifier. La gauche a été contre.
Donc vous êtes d'accord avec, oui, Emmanuel Macron sur
moi,
ce
j'aimerais
point.
Moi j'aimerais entendre M. Dupond-Moretti là-dessus parce qu'il était contre,
eh bien,
à l'époque.
En tous les cas, c'est le président de la République qui le dit.
Je l'ai demandé à l'époque. Oui. La majorité qui compose celle de. Non mais attendez, je termine. Oui. Enfin, j'ai l'impression que ça vous dérange.
Non,
ce que
pas
je
du
dis.
Tout.
Alors laissez-moi terminer.
Mais on a aussi d'autres sujets sur la sécurité.
C'est pas important de savoir que quand même on peut changer ce régime d'irresponsabilité. Oui. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un, vous savez, c'est le sujet des violences conjugales. Ah pardon, madame le juge, j'ai bu, j'ai tapé ma femme parce que j'ai bu. Eh bien, la peine est atténuée. Est-ce que c'est normal? De la même manière, la drogue du violeur, c'est quoi d'autre? C'est-à-dire que moi, je veux vous dire, je veux tuer quelqu'un, je prends quelqu'un, je lui mets la drogue du violeur, je le fais assassiner quelqu'un, et irresponsable, terminé.
Donc, il y aura un changement.
J'espère que ça va changer, parce que la gauche s'y était opposée, et la grande partie de la majorité d'Emmanuel Macron était fondamentalement contre. Donc, je me réjouis si, effectivement, ce régime de l'irresponsabilité change.
Alors, dans cette même interview du Figaro ce matin, donc Emmanuel Macron défend son bilan en matière de sécurité. Il confirme l'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, d'ici l'année prochaine. Le renouvellement notamment de 50% du parc automobile de la police, création de 15 000 places de prison et un grand débat national sur la consommation de drogue, allié une sorte de chasse au trafic de drogue tous azimuts. Alors en lisant cette interview ce matin, Rachida Dati, je me suis dit que vous auriez pu dire exactement la même chose au mot près.
Enfin, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas président de la République.
Non, mais que vous pouvez être d'accord. Bah, vous n'avez pas besoin d'être
président. Non, mais là, quand vous êtes président
d'accord
de la République,
avec ce que dit le président de la République.
Non, mais enfin, quand vous êtes président de la République, vous n'annoncez pas, vous faites. Il est président depuis 2017. Les effectifs policiers et de gendarmes sont où? Mais c'est bien de rajouter des effectifs. Mais vous ne croyez pas que la politique pénale et la sanction effective, c'est mieux? Pourquoi, à la faveur de la loi sur la sécurité globale, on n'a pas rétabli les peines planchers? Pourquoi, à la faveur de la loi sur la sécurité globale, ou même sur le régime des mineurs, sur la délinquance des mineurs, on n'a pas instauré une responsabilité pénale des mineurs dès l'âge de 13 ans, comme tous les autres pays européens? Ça donnait de la clarté, ça donnait un signal clair contre l'impunité. Tout ça, il pouvait le faire depuis 2017. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait?
Il dit qu'il a commencé. Pour vous, il n'a rien fait. Est-ce que vous n'êtes pas dans une opposition de principe?
Non, mais moi, je
ne
suis pas en opposition.
Il y a une augmentation du nombre de policiers.
Monsieur Benjamin Sportouche, je suis dans une opposition de principe. Ah oui, donc la politique pénale, c'est une opposition de principe. L'augmentation des effectifs, c'est une position de principe. Le rétablissement des peines plâchées, c'est une opposition de principe. Il faut arrêter.
Donc vous dites qu'il n'a rien fait. Il n'a pas fait.
Peine planchée, ça a été fait.
Bah alors vous pensez qu'il faut revenir sur la peine planchée. C'est ce que vous réclamez.
C'est ce que demande.
Mais est-ce que vous trouvez que sur l'augmentation du nombre de places de prison, vous le réclamez?
Donnez-moi l'adresse.
C'est lui. Enfin, vous dites qu'il n'a pas eu de création de postes de prison.
Ah bon, il y en a eu 1650 qui ont été créés.
Ce ne sont pas les chiffres qu'il donne. Vous dites que ce ne sont pas les bons chiffres.
Qui datent du gouvernement précédent. Je suis bien placée pour savoir que c'est un temps long pour construire des places de prison. Et les annonces aujourd'hui, mais comme si elles étaient faites. Donc donnez-moi les adresses.
Donc c'est factice pour vous. Tout ça, c'est factice.
Mais vous êtes journaliste, vous avez checké.
Non, mais c'est factice. Non, mais vous dites qu'il y a une augmentation du nombre de places de prison.
Moi, je ne crois que ce que je vois.
Vous ne croyez pas ce qui a
été fait. Donnez-moi les adresses de places de prison et les établissements pénitentiaires. Et dans ce cas-là, je vous dirais, c'est bien. Mais ça n'est pas le cas.
Vous y participerez, vous, à ce débat sur la drogue, sur la consommation de drogue?
Je l'ai demandé il y a plusieurs mois, puisque j'ai été auditionnée par une commission d'information. Il faut savoir qu'il y a 18 millions d'expérimentateurs en France de cannabis. Plus d'un million et demi de consommateurs très réguliers. Vous savez que le marché de la drogue, c'est plus de 3 milliards et demi de chiffre d'affaires. Et pourquoi on s'y intéresse de plus en plus? Pourquoi? Parce que ce marché de la drogue finance le crime organisé et le terrorisme maintenant. Donc s'attaquer au trafic de stupes, c'est pas uniquement de rajouter des effectifs, c'est pluridisciplinaire. Moi, j'aurais aimé entendre M. Darmanin, M. Le Maire, le ministre des Affaires Sociales, pour avoir une politique cohérente, pluridisciplinaire, pour lutter contre le trafic de stupes. C'est le blanchiment d'argent, donc le ministère des Finances, c'est tout ce qui est social, donc le ministère des Affaires Sociales, toutes les allocations diverses et variées, parce que certains touchent les allocations sous couvert, pour couvrir, pour se donner un statut, alors qu'ils sont dans le trafic de drogue. dialogue. Tout ça, ça se mène conjointement et avec une forte volonté politique, comme nous l'avons fait entre 2007 et 2012. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Et Éric Dupond-Moretti, vous en parlez, votre successeur au ministère de la Justice, qui veut supprimer les crédits automatiques de réduction de peine des détenus. Elle serait désormais plus accordée qu'au mérite. Ça doit être de l'ordre de vous satisfaire, par exemple. Si enfin, tout ça, on a l'impression que ça va vous couper un peu l'herbe sous le pied, parce que quelque part, ils vont sur votre terrain.
Ça ne me coupe rien du tout. Hein. D'accord. Je vous mets à l'aise, hein, monsieur Sportouche. D'abord, les réductions de peine automatiques, c'est où elles sont réductions automatiques ou elles sont au mérite. Si elles sont au mérite, elles ne sont pas automatiques. Il faut savoir ce qu'on dit. Mmh. Et je vais vous dire, la réduction de peine automatique, ça n'existe pas. Je vous renvoie au code de procédure pénale. C'est l'article 721. Je l'ai dit à monsieur Dupond-Moretti. Et donc, ça, c'est une annonce. Pour faire une annonce, vous verrez que la suppression de ces crédits, de ces réductions de peine pour bon comportement, ne seront pas supprimés.
Donc tout ce que dit le président ou Éric Dupond-Moretti, ce sont que des effets d'annonce pour vous. Il n'y a rien de concret dans tout cela.
Oui, monsieur, moi je ne suis pas journaliste. Mmh. Voilà, moi je suis responsable politique, j'agis.
Donc vous voyez les faits, et ben, vous regardez aussi les faits. Et pour vous, ils n'existent pas.
Ben, vous pouvez les vérifier, hein, et puis on se revoit.
Alors, en 2017, vous aviez voté Emmanuel Macron, Rachida Dati, contre Marine Le Pen.
Oui, alors. Oui.
Est-ce que si jamais ça se renouvelle l'année prochaine,
non,
vous
mais
ferez
moi,
la
je fais
même
pas,
chose
je, voilà, vous voyez, vous m'interrogez sur des choses que vous n'avez pas vérifiées, vous ne savez pas si la prison existe, si la politique pénale existe. Ben moi, je ne suis pas non plus dans la fiction. Voilà. Parce que moi, je vais vous dire, ce duel, les Français n'en veulent pas.
Mais s'il a lieu, Rachida Dati.
Non, mais les Français n'en veulent pas. Vous n'allez pas parler à la place des Français. Donc les Français n'en veulent pas. Donc je vous dis que ce duel n'existera pas. Pourquoi ? Parce que tous les sondages le démontrent. Toutes les valeurs, toutes les préoccupations des Français sont des valeurs de droite. Et donc, moi, je considère que le plus à même de mettre en œuvre un programme de droite fondé sur les préoccupations et les valeurs de la priorité...
C'est qui ce candidat
souhaitent.
De droite.
C'est un candidat de la droite.
C'est qui? C'est Xavier Bertrand ou pas? Parce qu'il est soutenu par exemple par le numéro 2 de Les Républicains, Guillaume Pelletier, qui est dans votre parti.
Il a le droit. Et alors, c'est quoi le sujet?
Non, mais je vous demande, est-ce que c'est compatible? Vous pouvez soutenir Xavier Bertrand?
Non, mais attendez, les ambitions sont saines. Mmh. Et puis le temps du choix du candidat, ça sera à l'automne. Donc le temps aujourd'hui n'est pas venu.
Et est-ce que vous pourriez être candidate ou pas? Parce que ce matin, vous tenez un discours très offensif contre la République, avec des propositions sur les peines
de manière générale, je ne suis pas offensive.
Non, mais vous l'êtes là ce matin à nouveau. Voilà. Est-ce que vous dites, j'aimerais moi aussi être testée par les instituts de sondage pour la présidentielle, comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse?
Moi, je vais vous dire, je me suis engagée en politique pour changer et améliorer la vie des Français, pour réduire les inégalités, pour lutter contre les injustices. Voilà mon combat politique, il est là. Et donc, je serai un artisan de la victoire de la droite en 2022.
Eh bien, on verra tout cela. Voilà. Merci beaucoup, Rachida Dati. Bonne journée à vous.
Je serai un artisan des valeurs de droite en 2022.
La victoire de la droite, monsieur Calvi.
De la victoire de la droite en 2022. Voilà. Toutes les préoccupations des Français sont fondées sur des valeurs de droite. Venez-vous de nous dire. Rachida Dati, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, notre météo.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Lundi matin, bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous nous emmenez aux États-Unis ce matin.
Eh oui, parce qu'il y a des jours où on aimerait bien tous être... de USA, né aux États-Unis, puisqu'à partir d'aujourd'hui, figurez-vous, tous les Américains adultes sont éligibles au vaccin. N'importe qui peut se faire vacciner, alors que nous, on galère toujours à rationner les doses. Alors pourquoi? Why, comme on dit là-bas? Eh bien, l'équipe du surf de l'info, toujours moi tout seul, donc, a enquêté. Vaccin, gros sous et grosse galère, pourquoi on est à la rue? Eh bien, en fait, suffit de se replonger un an en arrière. Au départ, cette histoire de vaccin express en Europe, eh bien, personne n'y croit vraiment. En avril 2020, Édouard Philippe.
Nous n'aurons pas de vaccin rapidement. Non. En tout cas, rien à un horizon raisonnable avant 2021 et peut-être un peu plus loin.
Rien avant 2021, voire plus loin. Emmanuel Macron, lui...
C'est sûr que c'était mal parti.
Ben oui, c'est mal parti. Emmanuel Macron, lui, voit encore plus loin, écoutez.
Et beaucoup me rappellent qu'on a parfois, la plupart du temps, mais plutôt 10 ans à en trouver. Et certains autres ont coutume de nous rappeler qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à présent un vaccin face à un coronavirus.
Vous étiez mal informé.
On sent qu'on y croit quand même. Bon, et en plus, nos politiques ne sont pas vraiment aidés par les épidémiologues et autres chercheurs. D'Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique.
Les premiers vaccins, en tout cas, qui auront une efficacité partielle, qu'on peut voir arriver pour un pays comme la France plutôt au deuxième semestre 2021.
Voilà.
Deuxième semestre 2021 et efficacité partielle. Et même le gourou de l'IHU, Didier Raoult.
La possibilité de faire un vaccin qui soit acceptable, utilisable et qui soit fonctionnel actuellement est extrêmement faible. Après, se jette dessus, il y aura un vaccin dans 22 mois, 25 mois, 26 mois. C'est de la science-fiction. Je ne connais pas de maladie émergente pour laquelle on ait trouvé un vaccin. C'est pas arrivé.
Le mage était en grande forme.
Mais une forme d'unanimité pour dire que le vaccin tout de suite, c'est pas possible. Sauf que pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un gars aux cheveux orange, assez inconscient, fou ou génial pour financer un vaccin.
Le gouvernement américain investit $1 milliard dans le projet de Johnson & Johnson. Au total, l'État américain a investi plus de $9 milliards dans la recherche d'un vaccin.
Oui, pendant que nous on n'y croit pas, Trump tente ce pari fou, plus de 9 milliards, et évidemment, tout est réservé du coup.
Les contrats d'approvisionnement signés avec au moins 5 groupes pharmaceutiques prévoient la livraison de 700 millions de doses.
Ouais, et là, on est à peine en août. Hein. Les gars ont mis 9 milliards sur la table, alors qu'au même moment, le patron de l'OMS explique.
We all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people
from infection. On espère tous avoir un vaccin, cependant, pour l'instant, il n'y en a pas et il n'y en aura peut-être jamais, dit-il. Oui, on n'est pas bien. Résultat, Trump, complètement dans son monde, persiste et signe.
I think we're going to have a vaccine, I'm telling you,
on aura un vaccin avant la fin de la semaine, dit-il. Emmanuel Macron lui répond par micro interposé.
Personne de sérieux ne me dit qu'avant la fin de l'année, on a des vaccins qui sont disponibles. Personne ne sait.
Ouais, la suite, on la connaît, on a peut-être été trop sage, pas assez ambitieux. Et puis ce matin, une pensée émue pour Nicolas Dupont-Aignan qui en janvier expliquait...
Je préfère perdre 2 mois plutôt que de partir dans une aventure hasardeuse.
Donc vous ne vous ferez pas vacciner.
Sûrement pas avec ce vaccin. J'attends le vaccin Pasteur. J'ai une très grande confiance dans l'Institut Pasteur.
Oui. Eh ben lui, il n'a pas fini d'attendre. Hein, quant aux Américains, profitez-en bien.
Bah écoutez, c'était très très rude ce matin. À demain.
À demain.
Alors, côté pasteurisation, on est notre météo, Marina Giraudeau.
Bon, on aura un peu de tout aujourd'hui. Alors pour ce matin, plutôt du soleil, à part sur les frontières du nord, l'est du pays jusqu'à la Corse, c'est un peu plus nuageux. Les nuages vont gagner du terrain et donc sur les deux tiers nord, ce sera plus variable avec des petites averses des Hauts-de-France au Grand Est et à la Bourgogne. En allant vers le sud, alors sur le sud-ouest, vous allez conserver le soleil, mais sur le sud-est, le temps va se dégrader de la Corse aux Alpes avec des averses, des orages et de la neige en montagne. Côté température, c'est encore frais ce matin pour la saison. On est 2 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison, mais cet après-midi, c'est bon, ça remonte. 2 à 3 degrés de plus que hier après-midi. 14 au Havre, 15 à Lille. Vous aurez 17 à Paris, il faudra 18 à Nantes et à Marseille, 20 degrés à Bordeaux.
Merci beaucoup Marina Giraudeau, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour et bonjour à tous.
À la une, le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète.
La NASA va tenter de faire voler ce matin son hélicoptère sur Mars. Un exploit historique, on va en parler avec Sophie Jousselin. La jeune Mia va pouvoir retrouver sa grand-mère. Aujourd'hui, la fillette enlevée mardi dernier a été retrouvée dans un squat en Suisse hier matin. Une Coupe d'Europe réservée aux clubs de foot les plus riches. Le projet de Super League fait bondir l'UEFA et les menaces de sanctions sont lourdes. Et puis nous irons à Londres une semaine après la réouverture des terrasses. La vie et les sourires reprennent petit à petit.
RTL Matin.
Mais d'abord l'histoire de cette étudiante en médecine qui ne voulait surtout pas perdre une année de plus. Et pour cela, Léa était prête à tout, y compris à passer son examen alors qu'elle est cas contact, censée rester donc à l'isolement. Le problème, c'est qu'à la faculté d'Aix-Marseille où le concours démarre ce lundi, il n'y a aucun plan B. C'est soit ça, soit la fin des études. Clairement, le choix était vite fait, Hugo Hamelin.
Oui, après une année universitaire cabossée, hors de question aujourd'hui pour Léa d'abandonner l'ambition de devenir médecin. Même si elle est cas contact, elle va tout de même se présenter au concours ce matin, aux côtés de 1600 étudiants.
Donc en fait, on va le passer en étant un risque pour d'autres personnes, et on va travailler toute une année, c'est notre seule chance. Et là, en fait, on est un peu en train de nous la gâcher parce qu'il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est organisé. C'est pas le début de la crise, ça fait un an qu'on est dedans. Enfin, moi, je trouve ça inadmissible et c'est honteux, en fait, c'est honteux.
Redoublement interdit, les syndicats étudiants demandent donc exceptionnellement que ceux touchés par le Covid puissent repasser les concours l'année prochaine. La maman de Léa, elle, n'aura pas cette patience.
La seule chose qu'on a à faire, c'est d'y aller coûte que coûte. Autrement, on perd notre unique chance.
Selon le nombre d'absents, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, le ministère de l'Enseignement supérieur va trancher dans les semaines qui viennent, permettre ou non le redoublement exceptionnel de ces étudiants prêts à prendre tous les risques après avoir été malmenés par la crise sanitaire.
Hugo Hamelin, l'Europe pourrait ne pas renouveler son contrat avec AstraZeneca en raison notamment des retards de livraison, mais aussi de l'impopularité du vaccin boudé dans de nombreux centres. Parfois, des gens décident de quitter la file d'attente au moment d'apprendre que l'injection se fera avec le vaccin anglais. À Nice, à Douai, les vaccinodromes sont restés fermés ce week-end.
Le décollage est prévu à 9h40 heure française. La planète Mars, pour la première fois, survolée par un hélicoptère.
Et cette prouesse, on la doit à la NASA qui poursuit son exploration de la planète rouge après le rover Perseverance, l'hélicoptère baptisé Ingenuity. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Alors soyons d'abord très clairs, on parle d'hélicoptère, c'est plutôt une sorte de drone grand format.
Oui, même un gros jouet si on veut, il mesure 50 cm de haut, il pèse 1,8 kg. En revanche, ses pales sont immenses, 1,20 m. Il faut bien ça pour réussir à décoller de la planète rouge où l'atmosphère est très fine. Elles vont devoir ses pales tourner extrêmement vite pour brasser le peu d'air qu'il y a sur la planète et propulser Ingenuity à quelques mètres au-dessus du sol. Le petit hélicoptère est en ce moment posé à la surface de la planète rouge. Le rover Perseverance, qui va filmer toute la scène, s'est éloigné de 40 mètres. L'engin va monter à 3 mètres d'altitude, tourner sur lui-même, rester en l'air 30 secondes, on est modeste, et se poser. Et on croise les doigts pour qu'aucune rafale de vent fréquente sur Mars ne renverse Ingenuity. Si tout se passe bien, on devrait recevoir une photo du sol en noir et blanc en fin de matinée et une photo couleur de l'horizon demain, quand l'hélicoptère aura rechargé ses batteries. 4 autres vols sont prévus dans les semaines à venir, à chaque fois un peu plus haut, un peu plus loin. Ingenuity est une sorte de démonstrateur technique qui pourrait servir à inventer les hélicoptères de demain pour les futures missions sur Mars.
Premier essai, donc 9h40 tout à l'heure. Merci Sophie Jousselin. Pour Thomas Pesquet, lui, le compte à rebours a démarré. C'est jeudi qu'il s'envolera depuis la Floride à bord de SpaceX, direction la Station Spatiale Internationale. Après 5 jours d'intenses recherches, Mia a donc été retrouvée hier par les enquêteurs en Suisse en compagnie de sa mère qui avait commandité son enlèvement. Elles avaient trouvé refuge toutes les deux dans un squat, une ancienne usine désaffectée. 5 hommes ont été mis en examen dans ce dossier, soupçonnés d'être les auteurs présumés de ce rapt aux allures d'opération militaire. La fillette, elle, est en bonne santé et elle va pouvoir, Dimitri Ramelot, retrouver sa grand-mère chez qui elle vivait avant cet enlèvement.
Oui, des retrouvailles avec sa grand-mère et une partie du reste de la famille qui ne devrait pas se faire aux Poulières dans les Vosges, là où l'enlèvement a eu lieu, mais dans un endroit tenu secret, plus au calme, loin des regards et des médias. D'ailleurs, la grand-mère de Mia a quitté hier après-midi sa maison en voiture avec une valise. Le procureur de la République de Nancy devait délivrer en urgence un mandat d'arrêt européen, formalité indispensable pour que la Suisse remette Mia et sa mère aux autorités françaises. Du côté de l'enquête, 5 hommes âgés de 23 à 60 ans ont été mis en examen hier pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée, 4 ont été incarcérés. Tous ont été recrutés par une connaissance de la mère de Mia et refusent le placement des enfants et plus globalement l'autorité de l'État. Un enlèvement baptisé Opération Lima qui a été extrêmement bien préparé. 3000 euros de budget pour des talkie-walkie, des portables, des perruques, des voitures maquillées. 2 jours à vivre sous tente dans les Vosges avant le rapt. D'autres interpellations devraient intervenir dans les prochains jours des deux côtés de la frontière.
Merci Dimitri Ramelot.
Dans un instant, on s'intéresse à cette Super Coupe d'Europe lancée par les clubs de foot les plus riches du continent, mais loin, loin de faire l'unanimité. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Dominique Tenza. Il brandissait la menace depuis plusieurs mois. Ils l'ont mise cette nuit à exécution.
12 clubs de football européens parmi les plus prestigieux, parmi les plus riches également, ont décidé de lancer leur propre compétition, la Super League, qui vient directement concurrencer la Ligue des Champions organisée par l'UEFA. Bonjour Nicolas Georgiou.
Bonjour.
Cette fois, les clubs semblent bien décidés. Elle va se jouer, cette Super League ?
Alors, c'est un projet qui franchit une étape. La Super League serait une ligue quasi fermée avec 20 clubs, 15 seraient membres permanents de l'épreuve, 5 seraient invités chaque saison. Parmi les signataires, 6 clubs sont anglais, 3 italiens, 3 espagnols. Ce sont des poids lourds, Liverpool, la Juventus, le Real Madrid. Ce n'est pas unanime, pas de représentants français ni allemands, le PSG, le Bayern Munich ne suivent pas la démarche pour l'instant. Il reste des zones d'ombre, quels diffuseurs télé, avec quels arbitres par exemple. Le Barça et le Real Madrid vont devoir passer par le vote des socios, des supporters. Ce n'est pas gagné d'avance. L'épreuve serait lancée dès que possible, mais sans doute pas avant 2022 ou 2023.
Quel est le but de tout ça ?
C'est d'obtenir plus de recettes, toujours plus. Dans la Super League, le champion d'Europe jouerait entre 23 et 25 rencontres, alors que dans la formule actuelle, il en dispute 13. Donc c'est simple, plus de matchs, plus de recettes billetterie, plus de droits télé et donc plus d'argent au final. La réforme de la Ligue des Champions qui doit être adoptée ce lundi par l'UEFA ne dégage pas assez de recettes pour les plus riches, selon eux. La Super League, c'est donc le chiffon rouge agité pour forcer l'UEFA à renégocier.
D'un mot, Nicolas, l'UEFA a déjà prévenu qu'il y aurait des sanctions lourdes pour les participants.
Ben oui, est évoqué pour ces clubs l'exclusion des autres compétitions, comme les championnats, et l'UEFA n'autorisera pas les participants à la Super League ou à la Ligue des Champions.
Merci, Nicolas Georgerot. Faut-il y voir un lien? À un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron choisit ce matin de défendre son bilan en matière de sécurité dans une longue interview au Figaro. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Le président à qui l'opposition a souvent reproché son manque de conviction sur les sujets régaliens.
Oui, et comme pour répondre à ses critiques, le président promet une vie paisible aux Français avec plus de bleu sur le terrain. 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dès cette année, des nouvelles places de prison. Il annonce un grand débat national sur la consommation de drogue. Il chasse autant le dealer que le fumeur, je cite Emmanuel Macron. On se roule un joint dans son salon et à la fin, on alimente la plus importante des sources d'insécurité. Bref, le chef de l'État veut apparaître intraitable. Mais ce n'est pas la première fois depuis le début de son quinquennat. Séminaires, discours, loi contre le séparatisme, loi sur la sécurité globale, Beauvau de la sécurité. Beaucoup de choses donc, mais un bilan qui, sondage après sondage, peine à apparaître aux yeux des Français. Et une actualité qui semble répondre au chef de l'État. Tout à l'heure à Montpellier, Emmanuel Macron va rencontrer des policiers dégoûtés par le verdict qui a acquitté 8 jeunes hier. 8 jeunes accusés d'avoir gravement brûlé des policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne en 2016.
William Galibert du service politique de RTL. La France appelle ses ressortissants à quitter provisoirement le Pakistan après les violentes manifestations anti-français qui ont repris de l'ampleur ces derniers jours, attisées par les militants d'un parti radical islamiste. Les caricatures sont toujours pointées du doigt. Les islamistes réclament le départ de l'ambassadeur de France. Une dizaine de policiers retenus en otage ont été ce matin libérés par les militants.
8h12, on va partir à Londres pour terminer ce journal, prendre des nouvelles de nos voisins britanniques, déconfinés depuis une petite semaine maintenant.
Alors qu'en France, un calendrier de sortie de crise semble se dessiner petit à petit avec une réouverture des terrasses prévue mi-mai, RTL a décidé d'aller voir comment la vie reprenait ailleurs et dans quelle mesure il était réellement possible de tourner la page. Peut-être pour de bon cette fois, on l'espère. Direction Londres donc. L'Angleterre où la vaccination a produit ses effets et où le printemps rime avec joie de vivre et sentiment de libération. Écoutez ce reportage de Marie Villon.
Elles attendaient ça depuis près de 4 mois, 6 anciennes copines de classe qui se retrouvent autour d'un repas sous le soleil sur la terrasse fleurie de leur pub favori. L'impatience guette même quand on frôle les 70 ans.
Nous célébrons la liberté. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, à part sur un petit écran lors d'un zoom. Et c'est loin d'être l'idéal. Tout le monde n'est pas arrivé à se connecter. Et puis il y a du décalage, tout le monde crie. Ça fait du bien de voir les gens en vrai.
Autre lieu, autre génération, mais même sentiment. Dans le centre de Londres, un groupe d'adolescents français profite aussi des retrouvailles.
Bah, on a pu faire les boutiques parce qu'on a besoin de vêtements, quoi.
Non, mais en vrai, ça a pris 3 heures pour trouver de la nourriture, donc c'était un peu galère.
Pourquoi ?
Parce que tout est rempli, il n'y a plus place partout.
Ça fait du bien d'être avec les copains, ça fait longtemps. Mais c'est vrai, ça fait longtemps, c'est agréable. De pouvoir au moins ressortir alors qu'en France c'est beaucoup plus compliqué en ce moment.
Un vent de liberté qui inquiète un peu les autorités, les gestes barrières sont oubliés dans les rues bondées.
Marie Billon en Grande-Bretagne pour RTL. Mm-hmm. Un mot de football, on évoquait la Super League il y a quelques instants. On a notre super championnat chez nous. Cette année, on ne s'ennuie pas. Le match nul de Lille, vendredi face à Montpellier, un partout, a permis hier à ses 3 concurrents de se rapprocher. Paris vainqueur face à Saint-Etienne, 3-2. Monaco qui l'a emporté 3-0 à Bordeaux. Et Lyon qui a battu Nantes 2-1. Les 4 clubs, Lille, Paris, Monaco et Lyon, se tiennent désormais en 3 points à 5 journées de la fin du championnat.
Et bien voilà, c'était le journal de Dominique Tenza et nous allons le retrouver à 9h.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure Dominique. Dans un instant, Jean-Mathieu Pernin et sa fausse information du jour. Et puis avis à toutes les personnes souffrant d'allergie, Michel Simès va nous aider à aller mieux. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h16. Regardons ce qui se passe du côté des fake news, des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Philippe de Villiers a-t-il raison quand il affirme qu'une simulation, j'ai bien une simulation de pandémie de coronavirus a bien eu lieu en 2019.
Et oui, en promotion pour son nouveau livre, Philippe de Villiers manie l'exemple choc sur tous les plateaux de France Télévisions à BFM. Il raconte la même anecdote dont il a réservé la primeur au magazine Valeurs Actuelles. Ah. Il évoque une rencontre le 18 octobre 2019 à New York. Je cite, il ne s'agissait pas d'un colloque mais d'un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus qui rassemblait Big Pharma, Big Data, Big Finance, la Fondation Bill Gates et le Forum de Davos. Alors à cette date, personne ne parle encore du Covid. J'en déduis qu'ils se doutaient de quelque chose. Je ne dis pas qu'ils ont inventé le virus, car je ne suis pas complotiste. Non. Je dis, ils ont accueilli le virus comme une bonne fortune, ils s'y attendaient. Alors, ils ne l'ont pas créé, mais en ont profité. Voilà la terrible vérité, qui en fait sont un peu le renfermé, hein, autant le dire à Philippe de Villiers, puisque cette histoire a déjà été démontée, mais persiste comme de la mauvaise herbe.
Alors en fait, cette théorie est apparue dès mai 2020.
Tout à fait. On cherche des coupables à la propagation du Covid. Alors sur les réseaux sociaux, des complotistes américains vont soi-disant apporter des preuves que Bill Gates et sa fondation sont à l'origine de la pandémie de Covid-19. Des messages qui seront partagés des milliers de fois. La réunion dont parle Philippe de Villiers a bien eu lieu à New York à l'automne 2019. L'objectif, je cite, illustrer les domaines dans lesquels les partenariats publics-privés seront nécessaires pendant la réponse à une pandémie très grave afin de diminuer les conséquences économiques et sociétales. Un exercice sur le papier donc mené par l'université Johns Hopkins aux États-Unis en collaboration avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill Gates. Il s'agissait, comme l'explique le journal Le Monde, de simuler une épidémie de coronavirus qui surgit cette fois-ci dans un élevage de porcs au Brésil. Voilà. On est donc assez loin de la Chine. Le bilan est aussi très largement différent. L'exercice se terminait avec 65 millions de morts en quelques mois, alors que le Covid a fait près de 3 millions de victimes en un peu plus d'un an.
Pourquoi cette réunion parle du coronavirus ?
Et alors c'est le point le plus intriguant. Bien sûr, c'est là, normalement, la preuve ultime, puisque l'état de pandémie mondiale a été déclaré par l'OMS le 11 mars 2020. Mais le coronavirus est une famille de virus qui inquiétait déjà les scientifiques bien avant l'arrivée du Covid. Il y avait eu le SRAS en 2003, le MERS en 2005. Il ne s'agissait pas du virus que l'on connaît aujourd'hui, mais on le sait depuis longtemps. La phrase « Je ne suis pas complotiste, mais c'est un très bon attaché de presse ».
À demain Jean-Mathieu Pernat, merci beaucoup, il est 8h19.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour cher Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous intéressez à un problème de santé, on ne peut plus de saison, les allergies, et vous voulez attirer notre attention sur le processus de désensibilisation.
Oui, c'est un traitement un petit peu particulier dont on pourrait dire qu'il soigne le mal par le mal. Je m'explique. L'idée consiste à soumettre un allergène à une personne allergique pour, en quelque sorte, amadouer son système immunitaire et faire en sorte qu'elle ne surréagisse plus quand elle est en contact avec l'allergène.
Alors attendez, si on met en contact un allergène et une personne allergique, on sait que cela va se terminer en éternuement avec le nez qui coule et avec des picotements, voire des démangeaisons.
Oui, vous avez raison Yvain, c'est pour ça que la stimulation se fait intelligemment de manière détournée. On peut utiliser des comprimés ou des gouttes que l'on dépose sur ou sous la langue. Cette zone est stratégique car elle recèle des cellules dites présentatrices de l'antigène. Leur particularité, c'est qu'elles sont capables de raisonner le système immunitaire, de lui faire comprendre que les substances allergisantes perçues comme hostiles ne sont pas si méchantes que ça. Alors je vous passe les détails techniques, mais c'est un peu comme si elles rassuraient, comme si elles amadouaient donc ce système immunitaire.
Ce processus de désensibilisation s'adresse à tout le monde ?
Alors il s'adresse à celles et ceux qui souffrent d'allergies sévères que les traitements habituels ne soulagent pas ou soulagent peu. On obtient des résultats satisfaisants contre les allergies aux venins d'hyménoptères, contre les moisissures ou les poussières. Mais c'est plus aléatoire si vous êtes allergique aux poils de chat, aux acariens, aux pollens de graminées ou d'arbres, chaque patient ayant sa spécificité et parfois des allergies multiples qui peuvent bien sûr compliquer la donne. Il est nécessaire, si vous êtes partant pour ce genre de traitement, d'en parler avec un allergologue. Lui seul est habilité à pratiquer une désensibilisation allergique. Et puis, tout cela s'adresse surtout aux personnes qui ont de la patience.
Que voulez-vous dire exactement ?
Le processus de désensibilisation, ce n'est pas l'affaire de quelques semaines ni même de quelques mois. Le traitement dure entre 3 et 5 ans. Si tout fonctionne comme prévu, vous êtes tranquille pour une période pouvant varier de 5 à 15 ans. Il arrive que, passé ce délai, on procède à un traitement de rappel.
Dernière question, Michel. La Sécurité sociale prend-elle en charge ?
Un peu, un tout petit peu. Le remboursement des gouttes, c'est 30%. Celui des comprimés, 15%. Donc, sur ce plan-là, il y a, comme on dit, des trous dans la raquette.
Merci beaucoup, Michel. Et à demain.
Ne bougez pas. RTL Matin revient dans moins d'une minute. RTL, toujours avec vous.
Il est 8h21, c'est un document RTL que nous vous proposons dans un instant. Notre journaliste Nicolas Burnand a pu rencontrer une famille dont le fils a été condamné à mort par un tribunal irakien. Il avait rejoint les rangs de Daesh et attend désormais son exécution. Vous entendrez les paroles touchantes de ses parents et puis nous discuterons avec Jean-Charles Brizard qui préside le Centre d'analyse du terrorisme. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
8h24, c'est un document RTL que nous vous proposons ce matin. Le combat peu populaire, évidemment, dans l'opinion française d'une famille pour éviter à leur enfant devenu djihadiste l'application de la peine capitale. Il y a actuellement 11 Français condamnés à mort en Irak pour leur appartenance à l'organisation État islamique. Et pour la première fois, une famille prend la parole et vous allez l'entendre avec beaucoup d'humilité, en fait. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour RTL, celui des parents de Léonard Lopez. À l'été 2015, ce Parisien a quitté la France avec sa femme et ses enfants pour rejoindre Daesh.
Oui, c'est un couple de jeunes retraités qui nous reçoit dans son appartement parisien. Depuis 5 ans, leur vie est rythmée par les reportages diffusés à la télévision, la visite des enquêteurs de la DGSI et les nouvelles de leur fils de 35 ans emprisonné à Bagdad. Le téléphone sonne parfois dans le salon. Léonard appelle quelques minutes avec l'autorisation des gardiens de la prison.
Les dernières nouvelles que nous avons de lui datent du mois de janvier. Il est dans une cellule avec 20 autres détenus. Que le temps passe à ne rien faire, c'est-à-dire à dérouler sa paillasse le soir, la rouler de nouveau le matin, avec des sorties dans la cour relativement peu fréquentes. Il y a des violences sporadiques de la part des gardiens. Tous les prisonniers français ont été passés à tabac. Nous avons l'impression que ce qui le fait tenir, c'est uniquement d'avoir des nouvelles de ses enfants et d'avoir des nouvelles de nous.
Les parents reçoivent également des lettres de leur enfant grâce à la Croix-Rouge. Cet ancien membre de l'État islamique attend son exécution par pendaison depuis 2 ans. Pour Suzanne, cette situation est insupportable.
Pour moi, en tant que mère, quand ils sont partis, quand ils ont rejoint Daesh, ça a été vraiment un choc. Et un deuxième choc, savoir que j'ai mon fils parmi les peu de Français qui a cette peine de mort au-dessus de sa tête, alors qu'on va fêter quand même le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, c'est inconcevable pour moi. Chaque nuit, je me couche en me disant peut-être demain, mon fils ne sera plus, il a été exécuté. C'est ma question continuelle, jour et nuit.
En avril 2018, Léonard Lopez s'est rendu aux forces kurdes en Syrie avec sa famille. Sa femme et ses 4 enfants, détenus aujourd'hui dans un camp, attendent encore d'être rapatriés. Lui a été remis aux autorités irakiennes. Son père est persuadé que la France est à l'origine de son transfert.
Mon fils, comme les autres accusés, n'a pas été arrêté en Irak, il a été arrêté en Syrie. Et à vrai dire, l'Irak n'a jamais demandé à récupérer ses 11 prisonniers. Le gouvernement français dit qu'il n'y a aucune preuve de son implication. Les prisonniers eux-mêmes ont parlé d'interrogatoires par des services français avant leur transfert et pendant leur transfert. Quand la France permet que des Français soient livrés finalement à un pays qui va les condamner à mort, ce n'est pas conforme à sa constitution, ce n'est pas conforme à ses valeurs. C'est quelque chose de pas insupportable à vivre, mais c'est une espèce de douleur permanente.
Les avocats de la famille ont fait appel de cette condamnation. Ils dénoncent une justice expéditive, un procès sans preuve ni témoin et une peine de mort prononcée en quelques minutes.
Alors aujourd'hui, la famille de Léonard Lopez demande donc son rapatriement en France pour y être jugé.
Oui, son père ne cherche pas à cacher le parcours de son fils. Il parle ouvertement de sa conversion à l'islam, à sa majorité, puis de sa lente radicalisation. Fiché S, il fréquente les milieux islamistes de France, fonde un important forum, longtemps considéré comme l'un des précurseurs du djihad médiatique. L'homme sera condamné à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier. À l'été 2015, il viole son contrôle judiciaire pour rejoindre le califat et son projet mortifère.
Si je vous disais... Il n'a pas combattu. Les gens qui vous écoutent diraient, c'est son père, il essaye de le protéger. Moi, je sais un certain nombre de choses qu'il m'a dit, j'ai des convictions, j'ai aussi beaucoup d'interrogations. Tout cela doit être réservé à un procès où véritablement la vérité pourrait éclater. La beauté de l'état de droit, c'est de juger les gens sur ce qu'ils ont fait, et non pas sur ce qu'un groupe a fait, et non pas sur ce que d'autres ont fait. Ils ont fait leurs études à l'école française, ils ont été endoctrinés en France. Ce n'est pas une histoire syrienne, ce n'est pas une histoire irakienne, c'est une histoire française.
Dans la famille Lopez, la religion n'a jamais joué un rôle important. Ouvert et tolérant, les parents, anciens éducateurs et sympathisants de gauche ont vécu l'engagement de leur enfant comme un déchirement. Mais Suzanne n'a jamais rompu le lien avec son fils.
Les familles ont besoin de comprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on a une justice en France, ça ne se passe pas en France. Là, on n'a aucun contact avec notre fils. On ne peut pas aller le voir. Cette vérité, on en a besoin. Et pour pouvoir reconstruire sa famille. Parce que notre fils, il est peut-être notre fils, mais il est aussi le père de ses enfants. Et donc si on veut reconstruire une histoire pour ses enfants, il faut bien l'histoire de ce père. Et c'est l'avenir de nos petits-enfants. Donc c'est ça qui nous fait tenir aussi.
Au moment de les quitter, les parents s'arrêtent devant une photo de Léonard posée sur une commode de l'entrée. On le voit souriant, barbe taillée, couché sur l'herbe, entouré de ses enfants. Un dernier pique-nique avec toute la famille, presque insouciant. C'était quelques jours avant son départ en Syrie.
Merci beaucoup Nicolas Burnon et bonjour Jean-Charles Brizard. Vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. On vient d'entendre dans la voix des parents de ce Français condamné le terme de dissimulation concernant les agissements de leur fils. C'est fréquent cette dissimulation ?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, s'agissant de Léonard Lopez, c'est quelqu'un qui était déjà très connu avant son départ en Syrie en 2015. C'est quelqu'un qui baignait dans l'idéologie djihadiste, qui avait fondé, qui était administrateur en tout cas d'un forum djihadiste, hein, francophone, l'un des principaux, Ansar al-Haq, qui a été d'ailleurs à ce titre condamné par défaut en juillet 2018. Il a été également cofondateur de Sanabil, qui était une association d'entraide en faveur des détenus islamistes, qui a été dissoute en 2016, et surtout il était proche des clans, donc ces djihadistes français qui sont finalement les principaux djihadistes et qui ont participé tous, comme Léonard Lopez, à la branche francophone de l'unité médiatique de l'État islamique. Donc c'est quelqu'un qui a volontairement rejoint en 2015 l'État islamique pour effectivement participer pleinement, à l'instar d'autres francophones, à la propagande de ce groupe et au recrutement mené par cette organisation.
Il y a cette photo de famille faite quasiment à la veille ou l'avant-veille de son départ qui est troublante. C'est le visage de cet homme à ce moment-là dans une réunion de famille n'a plus rien à voir avec ce que va être son combat en partant à l'étranger.
Bien sûr, encore une fois, il a sciemment, volontairement rejoint des individus qui participaient pleinement à la propagande de ce groupe. Il a même vécu longtemps avec Adrien Guial. Adrien Guial n'est autre que celui qui a revendiqué un certain nombre d'attentats en France, notamment l'attentat de Nice ou celui de Saint-Étienne-du-Rouvray pour l'État islamique. Donc il était très impliqué dans cette organisation et il l'a suivi finalement jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a été capturé par les Kurdes de Syrie avant d'être livré par cette même organisation aux Irakiens.
Et est-ce qu'on sait ce qu'il a commis là-bas ?
Ce dont il est accusé, c'est principalement, en tout cas par rapport à ce que la France sait de lui, de ses agissements sur place, c'est principalement son implication dans la propagande du groupe État islamique. Il est vrai que pour transférer ces individus en Irak, la justice irakienne a dû établir leur présence sur le territoire irakien.
Alors, pardonnez-moi, je vous interromps. Donc un simple fait d'appartenance au mouvement ?
Oui, bien sûr. Au terme à la fois de la loi française, mais également au terme de la loi irakienne. C'est la loi irakienne qui stipule que la simple appartenance à une organisation terroriste encourt la peine de mort.
La justice irakienne est-elle expéditive ? Jean-Charles Brizard dit autrement, les 11 Français condamnés ont-ils été jugés de façon équitable par les autorités irakiennes ?
Non, on peut pas dire ça. Effectivement, la justice irakienne est connue et on a vu d'ailleurs certains extraits de ces procès filmés. La justice irakienne est expéditive. Elle ne respecte pas le principe du contradictoire le fait que ces individus aient pu se défendre face à des accusations. En réalité, c'est une justice quasi automatique. En réalité, les peines prononcées, en tout cas, l'ont été à l'issue de procès qui sont très rapides et de manière extrêmement automatique.
Ce qui veut dire qu'on ne sait pas si les Français qui sont condamnés pour la peine de mort aujourd'hui en Irak ont effectivement du sang sur les mains.
Voilà, pour certains, on sait qu'ils ont combattu dans des brigades combattantes de l'État islamique, ça s'est avéré. Pour d'autres, effectivement, le flou demeure, et c'est le cas notamment de Léonard Lopez.
La France, et particulièrement, ce sera ma dernière question, la justice française, ont-elle la compétence, mais surtout les moyens, pour juger ce genre d'affaires sensibles, voire de rapatrier ces hommes pour qu'ils soient jugés en France, puisque c'est la demande des parents qu'on vient d'entendre dans l'enquête de Nicolas Burnon ?
Bien sûr, et c'est le paradoxe de cette affaire, c'est que la France, en général, d'abord, n'extrade pas ses ressortissants vers des pays qui appliquent la peine de mort. Ici, elle a accepté leur transfert en connaissance de cause, oui. et elle intervient finalement a posteriori pour demander à ce que ces peines soient commuées en réclusion criminelle à perpétuité. En réalité, la France avait parfaitement la compétence personnelle, puisque ces individus sont tous français, pour les juger, effectivement, pour des faits de terrorisme commis à l'étranger. Elle a choisi une autre voie, elle a choisi de s'appuyer sur un état tiers pour juger ces Français, au détriment de la justice française qui réclamait ces individus, puisque tous ces individus français sur zone étaient d'ores et déjà judiciarisés par la justice française.
Merci beaucoup Jean-Charles Brézard pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président du Centre d'analyse du terrorisme. Il est 8h34, dans un instant on va découvrir notre météo à 7 jours avec Marina Giraudot qui est à mes côtés. A tout de suite Marina.
A tout de suite.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Bernard Lehu.
Laissez-vous tenter.
Depuis 15 ans, ils sont les maîtres du thriller ésotérique. Éric Giacometti et Jacques Ravenne, après avoir créé le populaire commissaire Antoine Marcasse, premier flic franc-maçon de France, se sont lancés dans la saga du Soleil Noir. Une série palpitante sur la fascination des nazis pour les sciences occultes. Le quatrième volume, Résurrection, vient de paraître. Éric Giacometti et Jacques Ravenne viendront vous en parler en direct dans Laissez-vous tenter. À
9h. RTL Matin. Il est 8h36, on vous retrouve Marina Giraudot avec plaisir. Alors au menu de notre météo à 7 jours, un peu de tout m'avez-vous soufflé, puis on va se rajouter. Mais alors rien n'est sûr en plus cette semaine.
Bah oui,
et bah, lançons-nous dans cette évocation.
Oui, les modèles météo sont pas d'accord, du coup l'indice de confiance n'est pas le même.
D'accord.
Bon, déjà, je vais vous dire pour aujourd'hui, soleil ce matin, mais c'est vrai que ça va pas durer. Dans l'après-midi, ce sera un petit peu plus nuageux, avec même des averses. Du Grand Est, c'est déjà le cas en ce moment, au Hauts-de-France, mais aussi des Alpes à la Corse, à la Côte d'Azur et à la Corse, c'est là où on attend des averses et des orages et de la neige en montagne. Pour les autres, ce sera calme, mais plus nuageux au nord et on va garder le soleil sur le sud-ouest. Côté température, bon, vous avez un petit peu froid ce matin, mais cet après-midi, les températures vont revenir à des moyennes de saison. 14 au Havre, 15 à Lille, il fera 17 à Paris et 20 degrés à Perpignan ou encore à Bordeaux. Alors demain mardi, les nuages ont quand même dominé. Là où ils seront vraiment épais, ce sera couvert, c'est sur l'ouest du pays et le massif central. Ailleurs, ce sera variable. Côté température, 1 à 5 degrés en pleine demain matin, 5 à 11 en allant vers les littoraux. Puis l'après-midi, demain après-midi, on aura à peu près les mêmes températures que cet après-midi. Mercredi, on inverse. Des nuages vraiment épais avec des averses sur l'est du pays. À l'ouest, ça ira un petit peu mieux sans non plus avoir du grand soleil, mais ce sera mieux. Et puis à partir de jeudi, on devrait avoir l'anticyclone, hein, selon les modèles, qui devrait concerner le nord du pays, donc le soleil devrait revenir par le nord, ce sera un peu plus nuageux au sud. Vendredi sera une belle journée. Pour les températures, c'est là où on ne sait pas. Si l'anticyclone vraiment prend le dessus avec un flux d'est, ce sera un peu frais. Si la dépression au sud prend de l'ampleur, ce sera un flux de sud, donc un peu plus doux. Donc c'est une situation un peu mitigée pour les températures. Voilà, exactement. Et pour le week-end, température 17 en moyenne sur le nord, 20 sur le sud à confirmer. On en reparlera dans les prochains jours avec une perturbation samedi sur l'ouest, mais dimanche sur le sud.
Merci beaucoup Marina Giraudot. RTL, il est 8h38.
RTL, vous êtes comme ça.
Le bonheur chaque jour de faire le tour de France avec nos correspondants. RTL, vous êtes comme ça. Partons donc en région Centre-Val de Loire, retrouver Christian Panvert. Bonjour Christian.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Eure-et-Loire à la découverte du zoo-refuge La Tanière, un parc animalier hors norme qui vient au secours d'animaux sauvés du braconnage, retirés à des particuliers hors la loi, mais aussi d'espèces sauvages détenues illégalement et issues de laboratoires ou encore de cirques.
Absolument, le concept a été créé par un couple qui a fait fortune dans la téléphonie mobile. Leurs 270 magasins réalisait 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais en 2019, Patrick et Francine Violas décident de tout plaquer. Ils nous expliquent pourquoi.
En une soirée, ça s'est décidé. On avait 1800 salariés. Ils étaient aux quatre coins de la France et un jour, il y en a un qui nous envoie un courrier.
De démission.
Et, voilà, au lieu de marquer son nom, il a marqué son matricule.
Son matricule de paye.
Francine est venue me voir, on s'est regardé, on s'est dit, on a raté un truc là. Le soir même, on a décidé de vendre notre entreprise.
La vie peut basculer sur juste un numéro, quoi.
Ils ont investi 25 millions d'euros dans ce zoo-refuge. On y trouve des cochons, des tortues, des éléphants, des ours, des tigres, des lions, des chevaux. Au total, 600 animaux.
Là, on va aller chercher une autruche chez quelqu'un. Papa est décédé, les enfants habitent tous en ville. C'est pas très pratique d'emmener une autruche en ville. Le gros du troupeau des animaux qui sont ici sont des animaux saisis par les autorités. Ça représente 60-70% des animaux qui sont placés ici. Saisis pour détention illégale, saisis pour trafic, saisis pour mauvaises conditions de détention.
La tanière, c'est un lieu de transit. C'est-à-dire que nous, on remet sur pied les animaux et on les replace chez des particuliers qui ont des possibilités, qui ont des capacités pour se faire ou des parcs qui acceptent de prendre
les animaux un petit peu cabossés. Mais il repart toujours entre de très très bonnes mains.
En revanche, certains restent, comme ces 15 babouins de Guinée, 10 mâles, 5 femelles arrivés de Besançon. Ils n'étaient plus les bienvenus au zoo de la Citadelle, un site classé où ils abîmaient les murs. Il était impossible de les réintroduire dans leur milieu naturel. Pour Sébastien Muller, responsable zoologique, la tanière est une terre d'accueil idéale.
Ils ont eu effectivement la chance de pouvoir rejoindre le zoo refuge La Tanière, qui a créé une volière qui, je pense, aujourd'hui doit sûrement être la plus grande volière de présentation à ciel ouvert comme ça de babouins, sûrement en France. Ils sont loin d'être malheureux, hein. Rien que sur le secteur primate ici, il y a tout de même 6 personnes qui s'occupent d'eux, qui les choient toute la journée. Le moindre petit bobo est immédiatement réglé.
Sébastien Muller fait partie des 52 salariés à temps plein présents sur le site qui compte en plus des espaces pour les animaux, une zone de mise en quarantaine et une clinique. Mélissa Paz, vétérinaire, travaille ici depuis 2 ans.
Tout est possible, ça passe de la poule à l'éléphant super vite.
On peut tout connaître sur tout type d'animaux ?
Alors on ne peut pas tout connaître sur tous les types d'animaux. C'est pour ça qu'à la clinique, on peut avoir recours à une dizaine de vétérinaires qui sont soit là par téléphone, soit qui peuvent intervenir sur des grosses interventions. Et après, c'est à nous de savoir aussi référer les cas, en discuter avec les collègues et pouvoir s'adapter en fonction des spécialités de chacun.
J'imagine, Christian, que le coût financier d'une telle structure est déjà très élevé.
Oui, les charges fixes sont considérables. Il faut soigner, nourrir tous ces animaux. Rien qu'un seul tigre ingurgite en moyenne 15 kilos de viande par jour. Alors forcément, l'addition grimpe très vite.
Quand on tourne la clé le matin, c'est 15 000 euros, tous les matins, de fonctionnement, s'il ne se passe rien de spécial. Le modèle fonctionne, sauf qu'il y a un virus qui est passé par là. Mais voilà, 15 000 euros tous les jours pour fonctionner.
Mon mari et moi, nous avons créé tous les investissements, avons apporté le foncier, les structures. Et après, le budget mensuel, annuel, sera financé par la billetterie, c'est-à-dire les entrées du public qui paieront les soins journaliers, qui paieront les soigneurs, qui paieront la nourriture. Donc chacun va être acteur de la tanière.
Mais la crise sanitaire empêche pour l'instant toute visite. Patrick Violas espère que le site qui s'étend sur 20 hectares pourra ouvrir bientôt.
Il suffirait qu'on ait l'autorisation de mettre une personne tous les 100 mètres carrés. Je crois que dans les magasins, c'est 8 mètres carrés. En intérieur, nous, on demande une personne pour 100 mètres carrés à l'extérieur. Ça va quand même pouvoir se faire, je pense.
En attendant, la tanière traverse la crise grâce aux aides des collectivités et surtout des dons qui arrivent de toute la France. Mais à terme, ce ne sera pas suffisant.
Merci beaucoup Christian Panvert pour ce coup de projecteur sur ce couple qui sauve les animaux. Si vous souhaitez venir en aide à la tanière et à tous les pensionnaires sauvés, rendez-vous sur le site latanière-zoorefuge.fr. latanière-zoorefuge.fr. Nous allons aborder un autre genre de zoo dans quelques instants, c'est le zoo Gera, qui est en pleine forme, toutes sortes d'animaux qu'on va retrouver dans quelques instants et qui vont rugir. À tout de suite.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi.
8h45. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves. Bonjour lundi.
Ah, oh, monsieur merveilleux. Bonjour mademoiselle Jade.
Bonjour monsieur Calvi. Bonjour tout le monde. Merci. Nous recevons le ministre de la Santé pour un point sur la situation sanitaire. Bonjour Olivier Véran.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Ah, première question, faut-il s'inquiéter du variant brésilien ?
Écoutez, les vols entre la France et le Brésil ont été suspendus. Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Que j'interdise la samba et que je place Neymar en quarantaine ?
Enfin, détendez-vous, c'est juste une question, là.
Oui. Enfin bon, eh ben, c'est ma réponse. Question suivante.
De nombreux maires se plaignent du manque de doses de vaccins. Mmh. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Malheureusement pour eux, c'est moi qui décide. S'ils avaient été bons à l'école, ils auraient peut-être fini ministre de la Santé. Mais quand on a 25 de QI, on finit maire de Trifouilly-les-Oies. Et quand on est maire de Trifouilly-les-Oies, on la ferme.
D'accord. Oui, bien justement, les élus de terrain vous reprochent de plus en plus votre jacobisme. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Oh. Que je préfère encore mon jacobinisme. Alors Jacob est de l'affrontisme, de fouteur de merde.
Vous êtes drôlement tendu. Hein.
Mais j'ai de bonnes raisons de l'être.
Racontez, monsieur le ministre, oui. Ça vous fera du bien.
Eh bien, je viens de croiser Pascal Pro dans les couloirs de RTL.
Oui.
Il m'a traité de Dr Knock en me jetant les tomates de Cyril Lignac à la figure. Je suis ministre, un peu de respect, merde.
Dans un récent sondage, il apparaît qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude à coude au premier tour de la prochaine présidentielle. Et au second, la patronne du Rassemblement National se rapproche du président en exercice. Bonjour Madame Le Pen.
Bonjour Madame, je vous trouve très en beauté ce matin Madame.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Merci, c'est gentil.
Et vous Monsieur Calvi, aussi très mignon, mignon tout plein. Cette chemise lui va ravir, d'ailleurs tout lui va, il devrait être mannequin chez Yves Dorset.
D'accord, décidément vous êtes bien sympathique ce matin.
Mais oui Madame. Tenez, je vous ai amené des croissants et des pains au chocolat. Vous voulez que j'aille vous faire du café? Je peux vous le touiller aussi, si vous voulez.
Ma femme, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ne serait-ce pas votre nouvelle stratégie? Il paraît que vous voulez adoucir votre image.
Je vous présente d'ores et déjà mes excuses, mais je vais être obligé de vous contredire, madame. Ah. Ce n'est pas stratégique, je suis vraiment comme ça, douce comme du cachemire. Il est temps que les Français s'en rendent compte. Je suis la délicatesse et la gentillesse personnifiée, madame. Si vous voulez, je peux aller faire un bras de ménage chez vous.
Écoutez, non, ça me gêne. Ça ira.
Oh, mais je vois que monsieur Lignac a ses lacets d'effet. Je peux lui refaire s'il le souhaite.
En faites pas trop, quand même. Hein. Bon, sinon, politiquement.
Mon programme politique est très simple, madame. Il tient en trois mots. Dors les métèques.
Ah ben là, c'est dommage, vous gâchez tout. Hein.
Mais non, madame, je ferai ça avec beaucoup de douceur. Je les raccompagnerai moi-même à la frontière. C'est pas gentil, ça?
Jean-Luc Mélenchon est en tournée en Amérique du Sud. Un voyage en pleine pandémie qui fait polémique. Et nous sommes en direct avec le leader de la France insoumise. Ah oui, on y est.
Katnas, El Roukmout. Va me chercher une tequila, aïe aïe aïe, tequila.
Oh, vous êtes à l'antenne, Jean-Luc Mélenchon.
Vos gueules, les mariachis. Qu'est-ce que tu veux, petite tête de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois? Tu vois pas que je travaille?
Je voulais vous faire réagir sur la polémique concernant votre voyage en Amérique du Sud en pleine pandémie.
Mais c'est pas un petit virus qui va m'empêcher de faire la révolution. Hasta siempre. Je fais pas du tourisme, je fais de la politique.
Bon, écoutez, aller en Amérique du Sud au moment où le variant brésilien fait craindre le pire, c'est peut-être pas une bonne idée.
C'est peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu crois, qu'on fait la révolution en restant le cul planté sur sa chaise?
Tenez, leader Massimo Mélenchon. À propos de barreau de chaise, je vous ai ramené tous les cigares que vous m'avez commandés.
Tais-toi, Ruffin. On va encore m'accuser de prendre du bon temps en Amérique du Sud.
Bonjour François Ruffin. Vous êtes aussi du voyage, vous?
Oui, il m'a emmené avec lui. Il est gentil, le leader Massimo Mélenchon. Oui. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant.
Et ce voyage vous fait progresser en technique révolutionnaire?
Oui, oui, oui. Maintenant, j'arrive à boire trois rhums d'affilée sans vomir.
Mais ferme-la, Ruffin.
Vous avez raison, leader Massimo Mélenchon. Il vaut mieux profiter de la musique. Aïe, aïe, aïe.
Voilà.
Mais qui est con?
Ça l'a pas détendu. Hein.
Non, du tout. Non. Depuis son départ de TF1, notre ami Jean-Pierre Pernaut anime sa nouvelle émission « Jean-Pierre et vous » sur LCI. N'est-ce pas Jean-Pierre?
Eh bien oui, bonjour. Eh bien oui, ma petite Jeanne, une émission dédiée à la vie dans nos régions, ces régions que nous aimons tant, vous le savez.
Oui, ah oui, je le sais. Et quel est le thème de votre émission du jour?
Eh bien, je parlerai des restaurants clandestins. En effet, il n'y a pas qu'à Paris qu'on dîne en cachette. Partout en France, de nombreux restaurateurs investissent des lieux secrets. Bon, tout simplement pour pouvoir survivre aux restrictions absurdes imposées aux honnêtes gens par les imposteurs qui nous gouvernent.
Bah, dites-nous en plus quand même, Jean-Pierre.
Eh bien, prenons la route de Troupeaumé dans la Creuse.
Oui.
Monsieur Chongtang, le nouveau directeur de la SPA locale, a caché dans l'enceinte de la SPA justement un délicieux restaurant à viande qui ne désemplit pas, au contraire de son refuge. Preuve qu'il est possible d'associer régime carné et bien-être animal, contrairement à ce que prétendent les invertis des médias parisiens.
Ça me donne faim, non, pas du tout.
Eh bien, on part maintenant à Enfile la Monarque, juste à côté de Bourg-la-Reine, un lieu bien connu des amateurs de prostituées qui garent généralement leur camionnette sur le bord de la D154, un camouflage idéal pour le chef italien Giacomo Di Bufala, qui a garé son camion à pizza, au grand plaisir des visiteurs qui peuvent déguster une bonne pizza 4 saisons avant d'aller manger de la tarte au poil pour le dessert.
Ah, mais oui, c'est astucieux.
Et pour terminer, bah, notre petit tour de France, des tables clandestines, on appelle tout de suite bah, un petit meurdi vers droite qu'on aime beaucoup.
Ah oui.
Apparenté Jean-François, Jean-Frédéric Poisson.
Ah, je crois deviner. Allô, monsieur le maire.
Allô, allô Paris.
Ah oui.
C'est Jacques Chirceur.
Bonjour, monsieur Chirceur.
Bonjour, Dor.
Vous aussi, vous avez une petite table secrète à nous conseiller, j'ai peur. Là.
Oui, bah absolument. Dans notre petit village de la Fistinière, on a ouvert le sous-sol de la mairie pour organiser des dîners. Parce que hein, c'est pour les technocrates de Paris qui vont nous dire comment qu'on doit vivre hein, chez nous. On a un menu complet, on a même prévu le trou normand. C'est tout ce qu'il faut pour le remplir. Faudra venir nous voir hein, avec M. Calvi.
Avec plaisir.
Montez dehors.
Nous irons.
Ah oui, oui, dès qu'on a une autorisation, on viendra vous voir avec plaisir.
Voilà, c'est ça.
Oui, bah bon, c'est un peu plus de 10 kilomètres.
Non, mais un jour, on va être déconfiné, vous inquiétez pas.
Hein. Oh, vivement.
Moi, j'ai rien à ajouter. Si, qu'on vous retrouve sur le site RTL.fr.
C'est ça.
Et que nous avons rendez-vous demain matin avec toute l'équipe. Merci infiniment.
À demain.
Merci infiniment. Et bonne journée à vous deux.
Il est tellement sympathique, ce petit verre du verre droite.
Ce bon petit Jackie.
Oui. On part au Mexique dans un instant, vous voyez, comme quand on reste dans le climat. Ah, bien sûr. Voilà. Voilà.
Qu'est-ce qu'il va nous faire à manger, lui ?
Eh ben, il va vous préparer une soirée mexicaine, notre Cyril.
Très bien.
Ça vous plaît, hein ?
Ah bah bien sûr.
J'adore.
Ben voilà, moi j'aime bien quand on détend Jean-Luc Mélenchon. À demain.
À demain.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Alors, en ce lundi matin, nos auditeurs vous posent leurs questions sur rtl.fr/participer. Il s'agit d'Hervé. Aujourd'hui, il vit à Paris et vous demande une recette de plat pour une soirée mexicaine en famille.
Ah, génial. Alors, moi, j'adore ça. Alors, pour moi, la bonne soirée mexicaine, c'est trois choses. Une bonne tortilla,
oui.
Bon, que l'on achète et qu'on fait réchauffer. Une guacamole avec des petits tacos. Et, bien entendu, des aiguillettes de poulet que l'on va faire au saté. Donc, pour faire un bon guacamole, on prend de la chair d'avocat. Moi, je le coupe toujours avec des petits pois. C'est le début de la saison des petits pois, parce que ça apporte un côté vert. Et ça donne du goût, parce que l'avocat, c'est gras, mais j'aime bien avoir la texture du petit pois.
Deux avocats, 100 grammes de petits pois.
Hein. Exactement, cuit, écrasé. Ensuite, dès qu'une cuillère à soupe de feuilles de coriandre, du piment d'Espelette, parce qu'on est en France, mais si on veut mettre du piment oiseau, des piments plus forts, on peut l'utiliser. Un zeste de jus de citron, plus le jus à l'intérieur. Et ensuite, on assaisonne et on écrase. Alors, si on a un petit mortier, on le fait au mortier. Sinon, on l'écrase à la fourchette. Ça marche très bien. On écrase. Et on le met dans un petit bol. Et on termine. Alors, moi, je rajoute un peu de feuilles de coriandre fraîches. Le jus d'un citron un peu dessus. Il faut que ce soit très acidulé. Sur les grandes tortillettes qu'on réchauffe à la poêle, on fait à côté une petite fondue d'oignons caramélisés. Donc les oignons que je coupe, de l'huile d'olive, une noisette de beurre et on les fait fondre et caraméliser. Si on peut mettre des oignons doux, c'est génial, ça va apporter du sucre. Donc ça, c'est super. Et là, on laisse cuire. Ensuite, on prend des aiguillettes de poulet. Donc filet de poulet, je tranche en aiguillettes, je mets dans un petit plat à côté, je mets de l'huile d'olive et de la poudre de saté, je les roule bien dedans, et je les cuis au four ou je les grille à la poêle.
Très bien.
Voilà, juste comme ça. Ça, c'est délicieux parce qu'on va avoir ce goût de cacahuète, de paprika et ces goûts un peu épicés. Ensuite, on fait des lamelles de radis, donc des légumes, du radis, des petites carottes en pickles ou des petits cornichons si on n'en a pas. Et là, ensuite, on mélange tout ça. C'est-à-dire qu'on fait... on met la grande galette, on tartine d'avocat, dessus le poulet, les petits oignons, la coriandre, on roule tout ça et là c'est la fête.
Mais vive le Mexique avec Cyril Lignac. Question. Bon, là, ça, vous leur avez proposé un repas très complet. Pourquoi pas le chili con carne ?
Oui, aussi, j'adore ça. Aussi, on peut faire le chili con carne, bien entendu.
Oui, mais il est d'origine texane, m'avait appris en préparant l'émission.
Mais c'est quand même aussi une soirée mexicaine. Bon, je vous donnerai la recette. J'adore ça.
Une autre fois, il adore.
J'en ai une très bonne.
Merci beaucoup, Cyril. L'astuce du chef est à retrouver sur notre site et notre application rtl.fr. RTL, il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité à 9h avec Dominique Tenza.
Et cette visite d'abord d'Emmanuel Macron à Montpellier ce matin dans un commissariat puis dans un quartier populaire sur le thème de la sécurité. Le chef de l'État bien décidé à défendre son bilan à un an de la présidentielle alors que la droite le juge dans ce domaine beaucoup plus timide. Une visite qui intervient dans un contexte tendu quelques heures après le verdict en appel au procès de Viry-Châtillon. Des jeunes jugés pour tentative de meurtre contre des policiers en 2016 brûlés à coups de cocktail Molotov. Les peines ont été réduites par rapport au premier procès et d'autres acquittements ont été prononcés. Incompréhension et colère pour les policiers. Mehdi du syndicat Alliance connaît bien l'une des victimes.
Il comprend pas. Il est actuellement encore à l'hôpital. Là. Il se fait opérer régulièrement. Il subit encore cette affaire. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années et vous voyez qu'il est toujours en train d'essayer de s'en sortir physiquement. C'est une injustice énorme. Là, la suite, elle va être compliquée de continuer notre travail. Tous mes collègues subissent des violences quotidiennement sur le département. Et là, c'est pas un bon message pour eux, quoi. On fait notre boulot, quoi qu'il coûte. Mais là, c'est compliqué, là.
Et la colère des policiers devrait d'ailleurs s'exprimer aujourd'hui dans la rue. Ils sont appelés à manifester devant les tribunaux. Une supercoupe contraire aux valeurs européennes. Réaction très sévère il y a quelques minutes du commissaire européen au sport après l'annonce cette nuit de la création d'une nouvelle compétition lancée par 12 clubs de foot prestigieux parmi les plus riches du continent. La Super League qui viendrait directement concurrencer la Ligue des Champions. L'argent plus que le mérite, dénoncent plusieurs voix du foot depuis ce matin. L'UEFA menace de sanctions les participants. Et puis ce vol historique, dans quelques minutes, à 9h40, la NASA s'apprête à faire décoller son hélicoptère pour un survol de Mars. Quelques secondes à peine, quelques mètres, pas plus, mais une première dans l'histoire. Alors que se poursuit l'exploration de la planète rouge grâce au robot Perseverance.
Merci.